Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui chez Cosa Vostra avec Romain Paillard. Salut Romain.
Salut Mathieu.
Je suis ravi de t'avoir sur Génération Do It Yourself parce que, je te l'ai dit quoi, en t'invitant je crois, mais depuis début 2019, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit « faut que tu vois Romain Paillard ». Quoi. Donc là, tu as déjà le melon avant même de commencer.
Ouais, c'est flatteur.
Ah, ouais.
J'ai payé personne.
C'est vrai. Je me suis posé la question. Et du coup, évidemment, je connaissais le wagon, mais nous, on ne se connaît pas. Et je suis ravi de t'avoir là. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Romain ?
Bien sûr. Alors, c'est flatteur, mais ça met un peu la pression. Du coup, je ne décevrai pas au moins ces 4 personnes. Donc moi, je m'appelle Romain Paillard, je suis un des cofondateurs d'une boîte qui s'appelle Le Wagon. Le Wagon, c'est un bootcamp de programmation, donc c'est une école pour apprendre à coder de manière intensive en 9 semaines. L'objectif, en 9 semaines, c'est de devenir autonome en développement web, donc pour devenir développeur web, product manager, freelance, monter sa boîte, voilà, pour se libérer globalement, c'est un peu notre motto. Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis pas ingénieur, je viens pas du tout d'un cursus scientifique. Historiquement, j'ai fait du droit à la Sorbonne et puis après j'ai exercé comme avocat pendant plusieurs années. Voilà, donc ça c'est mon parcours. Donc j'ai été avocat.
Donc t'as passé
pendant...
le barreau.
Ouais, j'ai passé le barreau.
T'es parisien toi déjà?
Ouais.
Ouais. Et donc Sorbonne, barreau, t'étais en quoi, spécialisé?
Alors j'ai passé le barreau, j'ai fait un master 2 en droit des affaires en gros. J'ai commencé à me spécialiser
droit des affaires,
droit des affaires, pardon. Ouais.
On m'a encore envoyé un email aujourd'hui avec alors en plus toi t'es dans la tech et
tout. Ouais, alors je précise, alors, les anglicismes, ouais.
Les choses comme ça, je reprends un peu parce que sinon c'est vraiment des rares trucs sur lesquels je me fais vraiment attraper.
Alors moi c'est
très
encore
souvent.
Pire parce que comme je suis un ancien avocat, je peux avoir recours à l'anglicisme et encore pire, je peux avoir recours au latinisme.
D'accord.
J'aime bien les mea culpa, les in fine,
Je pense que est-ce que c'est pire, je sais pas.
Ah, je sais pas. C'est plus chic, mais c'est tout aussi snob.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais en gros, j'étais en droit des affaires, en master 2, j'ai passé le barreau dans la foulée, j'ai commencé, l'école du barreau, t'as des stages obligatoires.
Ouais.
J'ai commencé mes stages en fusion-acquisition, en droit des affaires, en gros, contentieux des affaires et fusion-acquisition.
Fait du contentieux.
Contentieux des affaires, ouais. Donc je faisais du droit commercial, droit des affaires.
D'accord.
Et en fait, en sortant de l'école du barreau, je me suis orienté vers ça, donc vers du droit des affaires, toujours version contentieuse. Et ça m'a donc dans une grosse structure.
Je reprends juste pour être certain de bien comprendre, puisque toi tu connais bien, mais tout le monde connaît pas bien. Dans le droit des affaires, il y a tout ce qui est, paperasse, enfin,
il y a le conseil,
document,
et le
conseil.
Contentieux.
Voilà, donc le contentieux, c'est quand ça se passe mal.
Ouais.
Le conseil, c'est quand généralement tu fais une acquisition, quelque chose comme ça, tu vas faire des pactes, des protocoles d'accord, des protocoles d'investissement, des choses comme ça. Et quand tu fais du contentieux, c'est quand tu vas défoncer ces protocoles parce qu'en fait, il y a une acquisition qui se passe mal, deux concurrents qui se font la guerre, des choses comme ça. C'est ça ?
C'est exactement ça.
Et ça finit souvent au tribunal où l'idée, c'est justement d'éviter.
Alors moi, j'intervenais que quand ça finissait au tribunal.
D'accord.
En fait, si tu veux, en droit, effectivement, t'as très bien résumé, il y a ce qu'on appelle le conseil, ce qu'on appelle le contentieux. Moi, c'est la partie contentieuse qui m'intéressait. Mais même la partie contentieuse, si tu veux, en droit des affaires, m'a vite gonflé, en gros. Parce que j'ai vite bifurqué sur un autre type de contentieux qui est le contentieux pénal.
Ouais.
Donc en gros.
Des affaires?
Non, alors là,
d'accord.
Pour le coup, vraiment. En fait, j'ai vraiment fait un virage à 90 degrés.
Parce que j'ai appris ça récemment. Il existe le pénal des affaires.
Exact,
c'est ça. Hein. Donc les hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui ont vraiment fait n'importe quoi ou qui sont allés assez loin, qui risquent de finir en tôle.
Tout à fait.
En gros. Donc le pénal, la notion, c'est à peu de choses près, je risque de la tôle ou pas. C'est ça.
Non, c'est exactement ça. Ouais. En anglais, c'est le white collar crime. C'est le crime en col blanc.
Ouais.
Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est un peu regrettable, mais ils n'ont pas souvent les mêmes peines que le petit dealer ou
d'accord.
Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et du coup, alors effectivement, donc j'ai bifurqué parce que j'étais dans un gros cabinet anglo-saxon. Je faisais donc droit des affaires.
Tu peux le nommer?
Non.
Non. C'est sur ton LinkedIn peut-être.
Je crois pas. En vrai, je suis resté 6 mois. Ça.
Ok.
C'était sympa. Hein, les gens avec qui je bossais étaient sympas, mais la matière me contenait pas. J'avais vraiment l'impression d'être salarié, quoi. Enfin, c'était pas pour ça que j'avais choisi le métier d'avocat. J'étais vraiment, on devait être 300 collaborateurs. Donc, j'avais pas le sentiment d'être libéral, quoi, d'être à mon compte.
Sachant que dans une structure comme ça, comme dans les gros caps de conseil, le jeune DIP est vraiment l'espèce de méga grouillon.
Ah ouais, le larbin.
Ouais. Ouais, le larbin. Ouais, totalement. Tu le fais bosser très tard.
Totalement.
Tout le temps.
Et alors, il est collaborateur libéral.
Donc pas sur salarié. Le
papier, donc pas salarié. Il bosse quand même des heures délirantes. Il obéit quand même aux ordres. Il a pas vraiment le temps d'avoir sa clientèle.
Délirant, pour préciser, c'est très, très tard le soir.
Ah ouais, ouais. Moi, voir tôt le matin. Bien sûr, moi, je finissais en vrai, en moyenne, je finissais vers 22h, quoi. Enfin, 22h, c'était à peu près tous les jours, quoi. Voilà. C'était n'importe quoi. Et puis, j'étais hyper dans mon truc. Je voulais absolument faire bien. Je voulais absolument finir tard. Tout le monde se met la pression. Tout le monde finit tard. Mais ça, c'est un autre monde, j'ai l'impression. Je pense que ça existe plus, ça, aujourd'hui. Même dans ces gros cabinets, ça a dû beaucoup changer.
Je suis pas sûr.
Je suis peut-être trop optimiste. Et alors du coup, j'ai complètement changé de voie, si tu veux. Moi, j'ai en parallèle, il y a un truc qui s'appelle le concours de la conférence, qui est un.
Je vois très bien un concours de
d'éloquence.
D'éloquence, ouais. Ouais. J'y suis allé 2-3 fois.
Ah, c'est
ouais.
Très sympa.
Ouais,
d'ailleurs, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Il y a les conférences Berryer et concours de la conférence, et ça c'est très 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 cool. Et moi, en fait, je me suis lancé à mon compte à cette époque en pénal, donc le pénal.
Après 6 mois, tu t'es dit, allez, salut les gars,
ouais,
on les casse.
Exactement. Et je suis allé, en fait, je suis pas vraiment à mon compte. Enfin, je suis allé développer l'activité pénale dans un cabinet.
Ok.
Un petit cabinet, et puis moi, j'étais le seul à faire du pénal.
Et toi, comment ça se passe? Tu quittes ce cabinet américain, tu dis, tu vas dans un autre cabinet, tu viens de faire du droit des affaires, et tu leur dis, moi, je vais faire du pénal à mon compte chez vous, et les mecs, ils disent, ok, salut, c'est super.
J'aurais dit, je vais développer une activité pénale et tout. L'associée de ce cabinet, ça la tentait bien, donc elle
a rien à perdre.
Ouais, non, elle a rien à perdre parce qu'elle, elle avait envie d'en faire un peu et tout. Donc
le dernier pénaliste que j'ai eu, c'était Arnaud Montebourg.
Ah ouais, exact, exact. Ouais.
Et d'accord. Donc t'as vraiment quand même pour le tout début vraiment shifté vite.
Ouais. Et puis j'ai fait vraiment le shift le plus intelligent du monde parce que je vais pas rentrer dans des détails, mais en fait quand t'es jeune collaborateur, au début les URSSAF etc te laissent à peu près tranquille, t'es genre au forfait quoi, et en fait tu dois provisionner tout cet argent que tu gagnes. Et en fait moi j'ai divisé ma rémunération par deux en allant dans ce cabinet pénal, donc évidemment je pouvais pas provisionner ce que j'avais. Bref, c'était l'enfer. J'ai vraiment fait le pire move du monde en termes de finances perso, mais bon, c'était sympa. Le pénal c'est quand même un domaine assez spécifique, c'est très vivant, c'est du droit très vivant quoi, donc on défend des ouais, gens.
C'est à la fois un peu je veux dire, pour un avocat, enfin, je sais pas, ma perception, c'est une sorte de truc un peu au-dessus du lot, tu vois. Il y a un côté un peu genre
un
le
peu
pénaliste noble,
ouais.
Etc. Et à la fois, c'est pas forcément là où ça paye, parce qu'en fait, à moins d'avoir un dealer de drogue très 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 riche, finalement, tu te retrouves souvent avec des gens qu'on peut soit pas
dans
le champ.
Tu fais des commissions d'office, ouais.
Ouais, c'est ça.
Tu fais de l'aide juridictionnelle, tu fais que des tout petits dossiers, les gardes à vue, etc. C'était la réforme de la garde à vue à l'époque. Et du coup, moi, globalement, je faisais quasiment que ça. Donc, je me réveillais la nuit pour aller assister mes clients en garde à vue. Je faisais des conventions immédiates le week-end.
Et quand tu dis tes clients, c'était des clients récurrents, enfin certains.
Non. On t'appelle.
C'est que de la commission d'office.
Ouais. À l'époque, j'avais des clients aussi à moi que je me suis fait petit à petit, mais j'étais très jeune. Hein. Et effectivement, en fait, le pénal, c'est très cool parce que. Enfin, c'est très cool. Tu vois des situations horribles, hein, globalement. Donc ça, c'est pas très gay, quoi. Mais c'est une vraie école parce que t'es tout le temps dans des nouveaux trucs. Moi, j'ai eu un nombre d'histoires. Enfin, j'ai un client qui a fait une overdose devant moi en plein entretien d'avocat au commissariat avant sa garde à vue. Enfin, pendant sa garde à vue. Enfin, j'ai eu des trucs qui marquent vachement, quoi.
Donc t'as plaidé.
Ouais, j'ai beaucoup plaidé et j'ai passé le concours de la conférence à l'époque en parallèle. Je suis arrivé au troisième tour. Ça m'a vachement plu.
Troisième tour sur.
Sur 3.
D'accord.
En fait, concours de la conférence, si tu veux, il y a 12 secrétaires de la conférence qui sont élus tous les ans. Au terme de ce concours, on est, je sais pas, 150, 200 au premier tour. Ils en gardent 36 au deuxième tour. Ils en gardent 24 au troisième tour. Et sur les 24, il y en a 12 qui sont élus. Moi, j'étais dans les 24, j'étais pas dans les 12.
D'accord.
Énorme frustration.
J'ai un de mes amis qui était mon avocat pendant très longtemps et qui est le fondateur de, de Call a Lawyer, Matt Davy, qui a fait plusieurs fois aussi troisième tour, je crois, en effet, ouais, bah
au pied du mur.
Et le niveau au troisième tour est juste incroyable.
Ouais, ouais, le niveau est cool. Hein. Le niveau, ouais. T'as des trucs magnifiques. Le deuxième tour est le pire, je trouve, parce que ouais. C'est le tour où tu fais un peu de l'impro et tout, c'est l'enfer. Le troisième tour est génial. Ça, pour le coup, quelqu'un qui voudrait découvrir cette vénérable institution, je recommande d'aller voir le troisième tour du concours de la conférence. C'est vraiment... C'est génial.
C'est un one man show. Hein,
ah ouais, ouais, c'est ouais, incroyable. Ouais. Alors moi, je me suis complètement raté. Et en fait, d'ailleurs, j'avais prévu de le repasser l'année suivante, mais en fait, en parallèle, j'ai lancé ma boîte. Et à un moment, j'ai dû choisir entre refaire le concours et partir sur ma boîte. Voilà. Donc, je l'ai pas représenté.
Mais donc, du coup, tu fais ça combien de temps alors pas le concours, mais le.
En tout, j'ai exercé pendant 3-4 ans.
D'accord.
Donc.
Tu en vivais bien ou tu en vivais...
J'en vivais très mal.
Ouais.
J'en vivais très très mal.
Ce qui est un problème pour beaucoup d'avocats.
Hein. Ouais, ouais. En fait, il y a une vision très très faussée des jeunes collaborateurs, des jeunes avocats. Mais encore une fois, je parle d'un métier que j'ai quitté il y a 5 ans, donc peut-être que ça a changé. Mais à l'époque, il y avait entre guillemets une caste de jeunes collaborateurs qui gagnaient très bien leur vie, les gros cabinets d'affaires, etc. Et après, la majorité des autres avocats, on était au tarif des UJA à l'époque, on gagnait quand même. Enfin, c'était pas dingue, quoi. En net. C'était quand même pas fou. Je trouvais que c'était une condition qui était pas facile, jeune collaborateur, jeune avocat à l'époque.
Oui.
J'adorais faire ce que je faisais, mais je trouve que concrètement, pour des gens qui ont 6, 7 ans, 8 ans d'études derrière eux, c'est un peu rude, quoi, de se retrouver à gagner du 2000 euros net ou 1500 euros net.
Et c'est tout le paradoxe de cette profession, j'ai l'impression, comparativement à d'autres professions libérales, notamment dans la santé, où finalement tu t'installes, il y a du business, on peut pas parler de business dans la santé, enfin c'est plus compliqué, mais il y a des choses qui tombent. Peut-être que c'est le numerus clausus pour les médecins qui fait ça, mais pour les dentistes, mais en l'occurrence, t'entends pas de ouais, mais gros galériens sur les avocats.
Non, c'est vrai, mais tu vois, les médecins, les jeunes internes, ils ont 10 ans d'études dans les pattes, ils gagnent rien.
Oui, mais il y a des avocats qui galèrent toute leur vie en parallèle. Ouais. En je veux dire.
Oui, mais il y a des gens qui galèrent toute leur vie.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je veux dire, l'avocat, c'est que t'as des sortes de grands écarts qui sont hallucinants. Ouais. Quoi. C'est-à-dire que, autant t'as des avocats, à l'inverse, tu leur dis. Moi, je vois ça dans les métiers de la tech et du dev où limite quand tu leur fais des prestats, des gros trucs intellectuels avec des algos sympas, etc., bien pensés, avec un business plan, les accompagner sur un truc et où tu leur dis, bon, je te facture un jour homme à 750 parce que le mec est bon ou la nana est super forte, bonne consultante, 5 ans d'expérience, puis ils te disent, ah, mais c'est hors de prix ton truc et qu'eux, ils te facturent 600 euros de l'heure.
Ouais,
tu fais, en fait, non, mais donc il y a c'est là où je vois cet écart.
Ah, il y a des avocats qui prennent 750 euros de l'heure.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. Donc, pas nombreux, mais ouais.
Ouais.
Et en fait, c'est aussi une profession où il y a des écarts d'âge, il y a des écarts générationnels énormes. Parce que dans les professions libérales, les gens partent plus tard à la retraite, j'ai l'impression. Enfin, c'est plus qu'une impression d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il y a du coup quelqu'un qui se construit une clientèle et qui la garde jusqu'à ses 75 ans, c'est difficile, c'est difficile pour le jeune de débarquer et de rencontrer cette clientèle, quoi.
Ouais. Et donc, du coup, tu décides, tu fais ces 4-5 années. Qu'est-ce que tu apprends en 4-5 ans d'avocat? C'est quoi tes gros enseignements?
Alors, pour le coup, je pense que c'est vraiment hyper formateur. Moi, déjà, le fait d'aller au feu, d'aller plaider, etc., c'est quelque chose qui m'a changé la vie. Moi, j'étais d'un naturel hyper anxieux, j'aimais pas trop parler. Et en fait, tu te forces et en fait, typiquement, si t'aimes pas parler en public, aller parler à une conférence, tu vas te concentrer sur ton stress, sur ton angoisse, etc. C'est un truc hyper auto-centré, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. L'enjeu, c'est de pas te taper l'affiche. Quand tu vas plaider dans un tribunal, l'enjeu, c'est quand même une peine de prison, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus important pour une personne tierce. Et du coup, toi, ton angoisse,
c'est hyper important ce que tu dis. C'est-à-dire que, en effet, comme quand tu fais un. Moi, j'ai eu la chance de faire des directs en télé récemment, radio, etc., où ça te stresse un peu, tu te bouges un peu, mais en l'effet, tu sais ce que tu. Moi, c'est ce que je me dis d'ailleurs, tu vois, je joue pas ma vie, il n'y a pas de stress, en fait, finalement.
Ouais,
voilà. Là, tu joues quand même la vie d'un mec ou d'une femme qui peut aller en prison. C'est ça. Ou voilà.
Alors il en a joué une grosse partie lui-même en général.
Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais de temps en temps, il peut, j'imagine, être innocent ou d'autres gens, ou à l'inverse, tu attaques des gens ou des choses où tu pourrais te foirer parce que.
Disons que tu peux pas t'offrir le luxe d'être nombriliste avec ton angoisse, quoi.
Ouais, ouais.
Tu vois, t'es obligé de la mettre de côté, mais totalement, quoi. Et ça, c'est un bon entraînement, je trouve.
Sachant que sur une plaidoirie, je me rends pas compte, mais t'en as quand même une bonne partie qui se joue avant.
Ah bah tout se joue avant en fait, tout se joue sur l'enquête, sur ton client, sur ouais bien sûr. C'est un tout hein. L'avocat il est là pour c'est un tuteur en fait l'avocat plus qu'un médicament quoi. Enfin moi en tout cas je le percevais beaucoup comme ça. Après on pallie un certain nombre de carences et de manque de connaissances de nos clients qui est normal, tout le monde connaît pas enfin, une naissance et ignorer la loi c'est quand même un bon gros pipeau hein. Les gens connaissent pas tout le code civil, tout le code pénal mais
voilà. ni toutes les conditions générales qui signent tous les jours. Et d'accord, et tes autres enseignements donc tu dis ça change la vie en termes de
confiance en soi, en termes de enfin comment réagir face à des situations, comment improviser face à des situations, ça a été hyper formateur. Après le droit c'est quand même une bonne école globalement, c'est une école qui est assez rigoureuse, qui a des méthodes de pensée syllogistiques, des façons de raisonner qui sont intéressantes, qui sont également extrêmement contraignantes quand tu commences à être entrepreneur derrière. On pourra en parler mais en gros, qui quand même, de fait, sont plutôt structurantes.
Ouais, mais qui te mettent des œillères aussi.
Ah, c'est l'enfer. Bah, après, quand tu montes ta boîte, en fait, je pense que l'avocat qui est encore dans ses modes de pensée d'avocat, moi, j'ai eu beaucoup de mal à en sortir, en fait, se met un carcan quand il devient entrepreneur qui est terrible, terrible. Alors oui, il est dans les clous tout le temps, mais en fait, c'est pas ce qu'on demande à un entrepreneur. Un entrepreneur, il a pas à être dans. Enfin, son boulot, c'est pas d'être dans les clous. Son boulot, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment et de choisir et de décider, etc. C'est pas d'attendre qu'on ait reçu le cabis pour démarcher le premier client. Voilà, c'est pas ça.
Oui, le fameux, pour prendre l'anglicisme, hein, mais fake it until you make it. Donc, fais pour de faux jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça marche pas quand t'es complètement dans un carcan.
Pas du tout. Mais ouais. Moi, c'est marrant parce que c'est mon frère. Donc, lui, il est ingénieur. C'est un peu tout le contraire, le sens pratique pour le sens pratique, quoi. Moi, c'était vraiment, j'avais besoin de théoriser, de mettre les trucs dans des cases, etc. Et mon frère, lui, c'est un fonceur et c'est un ingé de formation. Et c'est lui qui m'a hyper souvent dit, non, mais Romain, on s'en fout, quoi. Tu vois, le greffe, le machin, on s'en fout. Et moi, j'avais toutes ces déformations-là et je me disais, oh là là, mais on va avancer sans avoir le truc, sans machin.
Mais elle est très difficile, cette limite à identifier, cette frontière, parce que entre le légal, l'illégal, le toléré, le visible, l'invisible. En ce qui me concerne, moi, je vois un des plus gros. Alors, je peux pas dire que ce soit un fail parce que ça a quand même été une belle réussite, mais la première startup que j'ai créée s'appelle CitizenSide, qui est une startup qui recevait, qui vendait des photos et des vidéos d'amateurs. Donc, en gros, on était une agence de presse et on recevait des photos d'amateurs et de particuliers, de semi-pros, quelques pros aussi, qui t'envoyaient, je sais pas moi, une météorite qui arrivait sur, tu vois, filmée en train d'arriver sur Terre, boum, un gros impact. C'était John Galliano à la terrasse de la Perle qui dit « I love Hitler ». C'était, voilà, plein de choses différentes comme ça, qu'on revendait aux médias dans le monde entier, des médias très sérieux, des médias plus sulfureux, des gens comme ça. On a monté cette boîte en 2005. 2005, c'est l'année de la création de YouTube ou de Dailymotion. Et nous, pas un instant, on s'est dit, on va dire aux gens de nous envoyer ce qu'ils veulent, peu importe du foot, des séries, des films, et puis on verra, tu vois, on se démerdera, on dira au pire qu'on n'est que hébergeur, que c'est pas de notre faute, ou on dira, enfin tu vois, nous tout de suite, on s'est mis dans un truc, on s'est dit, attends, ça, on peut pas recevoir ça, on peut pas mettre ça en public, etc. Et finalement, tu te dis, il y a quand même des gens qui ont eu plus ou moins la même idée que nous au même moment, sauf qu'ils ont été beaucoup plus aventuriers, beaucoup moins, et puis ils s'en sont nettement mieux sortis. Et comme quoi, de temps en temps, tu te dis, ça peut se jouer à pas grand-chose. Je dis pas du tout qu'on aurait fait la même exécution aussi formidable qu'il y a probablement 2000 personnes qui ont eu la même idée cette année-là. Mais tu vois, c'est vrai que le droit te met souvent un peu des œillères. Ouais.
En fait, c'est très juste, et t'as ce côté... En fait, globalement... moi maintenant je suis arrivé à la conclusion que tout est légal. Non mais en gros tu vois là, allez, globalement tout est légal quand tu commences.
Il y a un avocat qui a shifté total. Alors au wagon on fait bon le matin.
Non mais en gros j'ai le sentiment que quand tu sors de la légalité tu le sais, tu vois. Après il y a des règles, tu vois. Enfin, les droits d'auteur, je parlais de ça à midi, par exemple, Uber et le statut des chauffeurs, tu vois.
Oui, quand tu vois Uber, tout est légal, hein, ça c'est sûr.
Ouais, mais tu vois, en vrai, le statut des chauffeurs, qui est requalifié en contrat de travail, enfin, le débat là-dessus, etc., c'est un risque qui était évidemment anticipé. Enfin, j'espère que les mecs chez Uber se sont dit, oh les gars, vous savez, en France, il y a une législation du travail.
Mais pas qu'en France d'ailleurs, hein, d'ailleurs. Ouais. Plein de pays, même des pays plutôt libéraux. Hein.
Ouais. Ouais. J'espère qu'ils ont budgété ce risque, quoi. Mm.
Ce dont on parle, c'est qu'en gros, chez Uber aujourd'hui, on parle de Uberisation de la société. Et en gros, chez Uber, beaucoup de tous les chauffeurs sont des indépendants. Et le risque, c'est que quand on passe plus de X heures par semaine à bosser pour Uber, on finit par transformer ton contrat en contrat de travail, requalifier ton contrat en contrat de travail et dire bah non, c'était des CDI et donc tu dois payer des charges, tu dois leur ajouter des heures sup, tu dois faire etc. Voilà. Ouais.
Mais c'est vrai que du coup, la question de cadre légal, en gros, faut pas s'en faire, mais apprendre à pas s'en faire, c'est un processus qui prend des années. Moi, apprendre à pas m'en faire, ça m'a pris. Enfin, c'est faux, ça m'a pas pris 5 ans, parce que ça fait 5 ans que j'ai lancé le wagon, mais en vrai, je continue à m'en faire. C'est simplement que, au fil des nuits, tu dors de mieux en mieux, quoi.
C'est là où, après à peine 20 minutes de ce podcast, on est impatient d'avoir la suite, puisque quand Romain te dit qu'il enseigne à des gens des choses en 9 semaines et que il en est arrivé à la conclusion que tout était légal, je veux savoir ce qui se passe au wagon.
Je suis totalement libertaire.
D'accord. Et tu fais ça pendant 5 ans. T'as eu, je sais pas, un gros fait de gloire incroyable, une grande fierté.
En tant qu'avocat.
Ouais.
Oh là là.
Pénaliste. Pas du tout. C'est vrai.
Non, j'ai connu des fails monumentaux. Je me suis fait écraser par des confrères, mais.
C'est vrai.
Non. Ouais. Oh là là. Ouais. Des trucs. Mais non. Des faits de gloire, bah à part le troisième tour de la conférence qui était quand même un mini fait de gloire. J'en ai pas eu spécialement, non.
C'est vrai. Et c'est ce qui fait que t'as arrêté ou pas du
non
tout.
Pas du tout, ça me plaisait pas mal. Moi j'avais des projets à côté déjà à l'époque, je bossais sur des petits projets web, je bossais sur un projet qui était assez sérieux à l'époque, qui s'appelait Mupis, qui était un réseau social de musiciens. C'est deux copains qui avaient lancé ça et je les ai rejoints. Et je me suis, à un moment donné, j'ai arrêté en gros d'exercer, enfin j'ai vachement calmé ma pratique pour passer du temps avec eux.
On est quoi, 2014, 2013 ?
On est en 2013, ouais, okay. début 2013. Et en fait, quand t'es avocat, t'as pas de chômage, parce que t'es profession libérale, donc du coup je devais continuer quand même à bosser, grosso modo. Et en fait, en gros, si tu veux, j'y arrivais. Début 2013, j'avais souscrit ce qu'on appelle une assurance perte de collaboration. C'est que nous, on paye des assurances, tu vois, qui remplacent le chômage, qui me finançaient, en gros, pendant 6 mois. Mmh. Donc pendant 6 mois, j'avais une assurance qui me payait, quoi. Et là, je me suis dit, je me mets à fond sur ce projet Mupiz. Avec du recul, c'était vraiment la pire idée du monde parce que, en gros, donc c'était un réseau social de musiciens. On avait quand même 100 000 inscrits, donc c'était gros.
J'allais dire, en effet, dans les idées à la con, le réseau social des plombiers, le réseau social des.
Je veux pas dire que c'était pas une idée à la con,
maintenant aujourd'hui tu fais le Uber du machin, en fait, le Facebook du truc, quoi.
Mais avec du recul, alors on avait beaucoup d'users, zéro rétention, c'est-à-dire que les gens revenaient jamais, ils s'inscrivaient, ils revenaient pas, ce qui est jamais très bon signe. À ce titre-là, tu peux avoir des millions d'utilisateurs, bref. Et aussi, surtout, on était vraiment, tu vois, sur un marché absolument pas monétisable, quoi. C'est-à-dire que nos clients, ça pouvait être des annonceurs éventuellement, mais genre l'annonceur le plus riche auquel on pouvait s'adresser, ça devait être un magasin d'instruments de musique. Tu vois, autant dire que...
Bon, dans un univers connexe, t'avais quand même quelques années avant MySpace qui avait fait quelque chose de pas mal. Il s'était pas mal basé sur la musique. Hein,
alors, ouais, mais nous, nous, c'est là où c'était beaucoup plus malin. C'est que on avait vraiment, enfin, Mupiz s'était créé pour que les musiciens se rencontrent et fassent des buffs ensemble. En
d'accord.
Fait,
okay.
Donc, ça, notre cible, c'était vraiment les musiciens pour l'amour de jouer ensemble. Donc c'était même pas pour la musique.
Sachant que c'est les musiciens qui font les bœufs ensemble, c'est les gens qui sont connus pour avoir beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent, voilà.
Qui vont payer très cher, d'accord.
Exactement. Et les annonceurs, en l'occurrence, les magasins d'instruments, sont des gros annonceurs. Techniquement, on sait très bien que les campagnes de pub TF1 sont financées par le magasin, tu vois, la rue des Martyrs de
l'art, ouais, de très bien.
D'accord. Donc en gros, si tu veux, si tu mettais le truc à plat avec, alors c'est toujours facile de refaire le match, hein, mais si tu mettais le truc à plat un peu, c'était pas monétisable vraiment comme projet, quoi. Mais ça m'a appris des tonnes de trucs.
Ouais.
Tu vois, ça m'a appris à bosser avec des gens, déjà avec des associés sur un projet web. Ça m'a appris à bosser avec un CTO, donc un associé technique, qui était le seul à avoir des compétences techniques dans la team, qui était un bon dev, qui bossait sur le site, qui était cofondateur, en fait, c'était son idée à la base. Et moi, j'étais hyper frustré à l'époque de pas réussir à comprendre ce qu'ils faisaient, quoi, à mettre les mains dans le produit.
Et pourquoi tu les rejoins à l'origine? Je veux dire, c'est cette fascination d'un univers de start-up, comme pour beaucoup, c'est besoin de bosser en équipe, c'est...
Moi, j'avais pas prévu de bifurquer vers ça. J'avais prévu de le faire en parallèle et de m'octroyer 6 mois en me disant idéalement le truc va prendre sous 6 mois et dans 6 mois je redeviens en gros avocat et puis j'ai ce truc en side project, tu vois.
Oui, comme ça tu seras millionnaire, voilà, en 6 mois de travail.
C'était d'être milliardaire, tout simplement. Non, mais en vrai c'est vrai que je faisais des trucs un peu pour voir, quoi.
C'est marrant parce qu'on est tous passés un peu
en fait
là,
on fait des trucs un peu pour voir et puis 10 ans après on dit que ouais, à l'époque c'est parce qu'on voulait changer le monde, mais enfin je déconne un peu, mais en vrai à l'époque c'était plus pour voir.
Ouais, d'accord.
Et à côté de ça, avec mon frère, on commençait, lui il est ingénieur, il était Quant, c'est les traders, trader en gros chez HSBC. Quantitatif, ça s'appelle. C'est lui qui fait les modèles compliqués d'actions, etc., de véhicules financiers complexes.
Son prénom ?
Boris.
Boris, pas dire.
Exactement.
Salut Boris. Ouais.
Et lui, en fait, bossait avec un très bon ami à lui, qui s'appelait Mathieu, qui nous a quittés. Le terme est pas bon, mais qui est parti à San Francisco. D'accord. À l'époque. Voilà. Et il bossait, il nous a pas quittés.
Bon, salut Mathieu, hein, quand même.
On met de l'ambiance. Et en fait, on bossait tous les trois, beaucoup sur des apps, sur des petits projets, une app de calendrier. On a vraiment tourné sur plein de projets, plein de trucs. On n'a jamais vraiment rien poussé. On bidouillait, on essayait des trucs, des applications, des machins. Voilà, c'était assez sympa. Hein. On était un groupe d'amis, on habitait tous dans le 10e, on allait boire des verres rue du Faubourg Saint-Denis le soir.
Oui, moi je suis passé par là longtemps. Voilà. On l'est toujours un peu là-dedans d'ailleurs. Moi j'adore ces moments.
Cool, hein. Ouais, c'est cool.
C'est vraiment, ouais. Tu refais le monde et l'avenir surtout. Ouais.
Exactement. Ouais. Et c'est top. Et en fait, tout ça, ça n'a pas donné grand chose, si tu veux, mais à l'époque, quand même, moi, il y avait un truc que je ressentais, c'était la frustration de pas savoir coder, de pas, quand ils parlaient produits entre eux, tu vois, sur le nouveau projet d'app, etc. J'y comprenais rien. C'était quand même hyper frustrant. J'avais envie de participer, d'être avec eux là-dessus.
Mais quand tu dis pas savoir coder, enfin, tu vois, moi, ça fait 15 ans que je suis dans la tech, je sais pas faire une ligne de code. J'exagère, hein, mais j'ai fait, un CV en 2002 ou 2003 en HTML, j'ai fait un site en WordPress que j'ai rendu plus de 100 000 euros quand même.
Pas mal.
C'est pas du code, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'avais bidouillé un peu le machin, je me faisais donner des coups de main par des gens.
Moi j'étais entouré d'ingés, donc ils collaient. Hein, les gars.
Mais voilà, moi j'étais entouré d'ingés, mais j'ai jamais eu vraiment une énorme. En fait, je comprends ce que c'est que du back, je comprends ce que c'est du front, je comprends. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de faire une ligne de code et de comprendre exactement comment.
Moi le truc, c'est que j'étais le seul dans la pièce, quoi. Tu vois?
C'est-à-dire que.
Alors je sais pas, c'est peut-être ça qui a joué, mais j'étais vraiment le seul dans la pièce à pas comprendre de quoi il parlait, tu vois.
Ouais.
Si tu passais, honnêtement, je suis sûr que si tu passais 6 mois dans une pièce, tu vois, dans un bureau, entouré de devs, où t'étais le seul à pas comprendre, tu vois, ce qu'ils disaient entre eux, tu finirais par te dire, ok, les gars, bon, fais voir.
Peut-être aussi si tu fais ça, la même chose avec des gens qui font du tricot, d'ailleurs, c'est possible. Mais...
Ah, c'est sûr. Mais moi, à l'époque, j'étais avec des gens qui faisaient du code.
T'aurais pu faire une école de tricot.
Lancer un bootcamp de tricot, ouais. Je suis pas sûr que ça aurait eu le même impact, quoique, mais.
Voilà, bon, ok.
Mais quoique l'artisanat,
c'est... Sur cette petite digression.
C'est l'avenir.
Oui, oui. D'accord, donc toi, tu as ressenti cette...
Alors moi, j'avais cette frustration-là, et en parallèle, on a un ami, un autre ami, beaucoup d'amis. Non, mais on a un ami qui est parti faire ce qui s'appelait Dev Bootcamp à l'époque.
Ouais.
En fait, Dev Bootcamp, c'était le premier bootcamp de programmation. Donc, c'était les premiers mecs à tester ce format-là, en fait, à San Francisco. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a quand même marqué... on va dire ça a quand même marqué le modèle parce qu'aujourd'hui on parle de bootcamp, tu vois, c'est l'appellation générique. C'est à eux qu'on doit ça quand même. Lui et donc ce pote-là, il est parti faire le dev bootcamp à San Francisco. Et grosso modo, il a fait 9 semaines de formation et en sortant, il a été recruté comme software engineer dans la vallée, dans la Silicon Valley, direct, tu vois. Et ouais.
Ça me fascine.
Bah ouais, c'est fascinant. Bah, en vrai, moi, à l'époque, enfin, j'avais trouvé ça délirant. Et, il a été recruté dans un, donc il a fait un bootcamp de Ruby. Alors, c'est, bon, en gros, de Ruby, c'est un langage de programmation.
Ruby on Rails.
Exactement, oui. Qui est le même que celui qu'on enseigne nous.
Qui a été inventé par, c'est pas Ruby on Rails qui a été inventé par le fondateur de...
C'est Rails, de Basecamp.
Ah, de Basecamp, ouais.
C'est
Justin
Rails,
Fried. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, Rails. Ok.
Et du coup, donc lui, il a fait ce bootcamp de 9 semaines. En sortant, il a été recruté comme développeur Ruby dans une énorme boîte là-bas. Il est resté quelques mois et il est parti ensuite chez Uber, où il était développeur Python, un autre langage. Mais en gros, si tu veux...
Python qui est le langage connu pour la data, hein, principalement.
Ouais, exactement. Ouais. Et en gros, nous on était à Paris à bosser sur des apps. Moi, j'avais cette frustration énorme de pas savoir coder. Je vois ce mec qui part, tu vois, enfin ce pote qui part faire 9 semaines de formation, qui en sortant trouve un job dans la Silicon Valley comme développeur dans lequel il s'éclate. Tu vois, il y avait un côté magique, quoi. Enfin.
Ouais, ouais. Alors ce que j'arrive pas à comprendre, et du coup on va vite enchaîner sur le wagon et comment vous avez fait ça, mais en fait j'arrive pas à comprendre comment donc mon frère également, Pierre, qui est mon associé, est ingénieur, c'est lui qui dirige toutes les équipes de dev chez Cosa Vostra, et il a quand même fait 6 ans d'études, des maths poussées à un gros niveau parce qu'il faisait des maths appliquées, et était dans un niveau d'ingénierie et de choses qui est quand même voilà, c'est ouais. Ils sont en plus assez formatés, comme tu disais, pour le droit, hein, ouais. Formatés à, alors c'est bien ou pas bien d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et
alors en fait nous,
et c'est comment t'arrives à en 9 semaines, alors tu vas me dire ils font pas exactement la même chose, c'est différent, mais avoir des mecs qui arrivent à se faire recruter comme développeurs, alors on doit peut-être pas pouvoir justement utiliser le terme ingénieur, mais et bah, quelle est ça. La différence et voilà, est-ce qu'à un moment ils peuvent revenir à niveau, enfin
en fait alors la réponse elle est dans la question, c'est-à-dire qu'effectivement nous on forme des gens au développement web, donc c'est un type de programmation, si tu veux. En gros, quelqu'un qui fait une école comme l'Epitech, comme tu vois un cours de Stanford, tu vois de programming, etc. C'est un ingénieur. Donc c'est quelqu'un qui est ingénieur logiciel. Donc il connaît en fait les couches de la machine, les couches basses de la machine, si tu veux. En gros, il sait comment fonctionne la machine et puis il peut monter dans les couches et aller vers des langages un peu plus vernaculaires comme celui qu'on pratique dans le développement web aujourd'hui avec Ruby, Python, etc.
Vernaculaire.
Ouais, pardon.
Oui, d'accord.
Normalement, c'est le bon terme.
Normalement, j'essaie d'expliquer ce qu'on
je crois que vernaculaire, c'est le langage parlé, quoi.
D'accord.
Je crois. tu mets le doute. Et du coup, voilà, en fait, nous, ce qu'on forme, c'est des gens qui sont spécialisés en développement web. C'est des gens qui sont capables de développer des applications web.
Ouais.
Mais c'est des gens qui sont pas capables d'aller dans ces couches profondes de la machine pour savoir, tu vois, comment un processeur. Voilà. Mais après, ça, c'est faisable aussi, tu vois. C'est juste que si tu cherches quelqu'un pour développer une application web, bah tu vas recruter quelqu'un qui sait développer des applications web, donc si la personne sait comment fonctionne un processeur, ça change rien pour toi tu veux un site web, tu vois,
t'as pas besoin de connaître la molécule de la farine pour faire du pain.
Exactement. Mais c'est un peu ça, et ce qui n'empêche qu'on a des élèves, tu vois, qui ont fait le wagon il y a 4 ans 5 ans, qui aujourd'hui ont des super niveaux parce que les mecs derrière ils ont creusé les sujets qui les intéressaient, ils sont allés plus bas dans les couches, mais en fait t'es tout à fait on a des élèves qui sortent du wagon et qui sont recrutés comme développeurs web full stack chez Drivey dans les mois qui suivent, quoi.
J'ai vu ça, ouais. J'ai vu qu'il y avait quand même des beaux Donc un full stack, c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'on appelle du front et du back. Donc ce qu'il y a un peu, si je dois comparer, on va parler du moteur et de la carrosserie un peu, c'est
ouais,
ça.
Ouais, ça.
Donc le back, c'est plutôt le moteur, et le front, ce qu'il y a devant, quoi, front en anglais, et back derrière, c'est l'arrière boutique.
C'est l'arrière boutique et la vitrine, quoi.
Et voilà. Et du coup le ça, c'est quand même assez fou. Donc la promesse, c'est de se dire en gros. Tu fais le wagon et en sortant, tu es capable de développer des sites.
Ouais.
En gros, à peu près.
Ouais, c'est ça.
Sans aller super loin dans l'algorithmie, tu es capable de faire un truc en partant de rien. Tu pars quand même d'un framework.
Alors, on utilise Rails qui est un framework, si tu veux, mais en gros, l'idée, c'est que, en gros, au bout des 9 semaines, tu es capable de coder une application web comme Airbnb, tu vois. En gros, en 7e semaine, ils codent un clone de Airbnb, les élèves.
D'accord. En version 0, quoi. Enfin, pas en version actuelle.
Ouais, tu fais le Airbnb du chat, tu fais le Airbnb de la luge.
D'accord.
Vois. Mais voilà. Mais avec les features que t'as sur Airbnb.
Ouais, avec tous les élèves que t'as eu, vous devez en avoir des
Airbnb. Il y a pas mal d'Airbnb. Je pense à un magasin de vente d'occasion de site Airbnb.
D'accord. C'est pas mal.
J'en ai beaucoup.
Bonne idée. Écoute, et du coup, l'idée, c'est que tu arrives à faire tout ça, et j'imagine que tu apprends à apprendre aussi.
Ouais.
C'est un peu le projet.
Ouais, en fait, au-delà d'apprendre les langages, la logique, la grammaire, etc., ce qui est hyper important, c'est d'apprendre les bonnes pratiques, comment on fait, comment on pense, comment en amont on s'assied pour penser son projet. Tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales, ouais.
Et donc, je reviens sur juste framework, on disait ça, parce que il y a différentes manières de faire les choses. Il y a tout ce qui est CMS. En fait, pour faire un site internet, on peut partir de choses qui sont totalement en ligne, où t'as vraiment presque rien à faire. C'est-à-dire que tu suis un peu les, alors après, tu peux le dire à tous les niveaux, tu suis les tutoriels, mais il y en a où vraiment tu t'inscris et puis tu te mets sur Shopify et puis en même sur PrestaShop d'ailleurs maintenant de plus en plus, mais en quelques heures, en quelques jours, t'as une boutique à peu près bien faite.
Bah, si ton objectif, c'est de faire une boutique, tu vois, un petit e-commerce, effectivement, c'est pas nécessaire de venir faire le wagon, tu vois. Nous, l'idée, c'est que tu sois capable quand même de faire des applications web un peu plus compliquées, sur des sujets un peu plus larges, quoi.
Donc là, par exemple, là où quelque chose comme Airbnb, c'est un peu complexe, c'est qu'on parle, par exemple, d'une plateforme, hein, donc d'une marketplace, donc t'as des acheteurs, des vendeurs, enfin des loueurs, des locataires,
des bookings, des paiements, tu vois, des calls d'API de Facebook pour s'inscrire, enfin c'est des détails, mais c'est tous ces trucs là
que ça fait. Ouais. Tu sais, te connecter à donc
Facebook
une API, c'est te connecter à d'autres sites pour savoir récupérer les noms, récupérer voilà des données, est-ce que c'est dispo, est-ce que c'est pas dispo, etc. La gestion d'agenda, c'est hyper compliqué aussi. Ouais. Donc vous poussez ça quand même sur d'accord, vraiment.
Ouais, et puis nos élèves, après, tu vois, les deux dernières semaines, c'est des projets perso par groupe de 4, et en gros, enfin, les élèves, là pour le coup, c'est imagination, tu vois, totalement libérée, quoi. C'est à dire qu'on a des projets très très différents selon les sessions. Là, on a des démos à la fin de chaque session. Ouais. Y a toujours des trucs hyper hyper variés, quoi.
Donc, c'est incroyable.
D'ailleurs, tu peux aller regarder sur YouTube, il y a plein de démos, tu vois, des modèles qui ont été filmés. Ça donne une idée un peu des projets que les élèves codent. Mais en gros, là, en 5 ans, il y a un gros millier de projets qui ont été développés au wagon.
Sur YouTube, sur la chaîne du wagon, c'est ça?
Ouais.
Oui, ok. Et alors, on va revenir du coup en arrière avant de revenir dans le détail de tout ça. Moi, je trouve ça assez fou parce que de loin, en fait, tu vois, ça fait quelques années, on me dit. Tu crois pas que je devrais faire le wagon? Et moi, je me dis, attends, tu vas pas apprendre à coder en 2 semaines, quoi, tu vois, enfin, en 9, je sais pas. Et c'est vrai que tu, à la fois dans cette lignée des MOOC et ici, moi, je propose, enfin, on incite fortement nos collaborateurs à se former en permanence, donc parce que tout évolue tellement vite que si tu sais faire du SEO en 2015, tu sais plus en faire en 2018 ou 2019, et c'est vrai un peu surtout sur le web marketing, mais sur le code, tout a évolué, sur le design, sur voilà. Et du coup, vous placez vraiment dans cette mouvance de l'apprentissage collectif. Il y a aujourd'hui une dynamique de promo où les gens qui sortent après, t'as un réseau de gens qui ils progressent encore.
On a un alumni qui est hyper fort. En fait, on a évidemment un énorme groupe Slack.
Ouais. D'anciens élèves,
qui est un énorme Slack payant en plus parce que on a besoin de permettre aux gens d'avoir accès, tu vois.
Ouais.
Je te raconte pas c'est au nombre d'utilisateurs, donc c'est l'enfer le pricing.
Mais parce que Slack est payant.
C'est par user, donc c'est vraiment le truc qui scale pas du tout pour nous en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une valeur énorme et du coup on a 4400 alumni. Et 4400 alumni, ce qui est cool, c'est que c'est un gros nombre, si tu veux. Ça fait quand même une bonne quantité de gens qui peuvent s'aider, qui sont là les uns pour les autres. Mais ça reste suffisamment petit pour que ce soit une communauté soudée. Donc c'est vraiment, t'as les deux aspects bénéfiques, quoi. Et l'autre avantage qu'on a, c'est que comme on est dans 32 campus à travers le monde, on est une communauté qui est hyper internationale. Donc en gros, t'as des gens au wagon Rio, des gens au wagon Tokyo, des gens au wagon Londres, Melbourne, et tout le monde en fait, tout le monde s'aide. Quelqu'un qui a fait le wagon à Rio, qui vient vivre à Marseille, et il va trouver des gens pour lui ouvrir les bras et voilà, et la cuillère.
D'accord. Donc là, t'es en train de me dire, je l'avais vu un peu, je le découvre pas, mais que t'es partout dans le monde, en fait, déjà.
C'est Octopus. non, mais c'est vrai qu'on a plein de campus, ouais.
Bon, alors, attends, tu vas me raconter tout ce développement parce que c'est fou. On parlait de Londres avant, juste avant d'enregistrer. Et puis là, tu me parles de tous les continents. C'est quoi le point de départ, en fait, de tout ça, du coup?
Le point de départ de l'expansion?
Du wagon,
donc c'est.
Tu m'as parlé de ce bootcamp, mais qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là? Qui le fait? Avec qui tu es? Pourquoi tu le fais?
Alors c'est donc le déclic, c'est ça, c'est cette frustration qu'on a et ce pote qui va faire le bootcamp là-bas. On découvre ce format, on trouve ça génial, et donc avec Boris et Mathieu, on se pose, on se dit mais attends, tu vois, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu du même genre en France? Voilà. Alors évidemment le postulat de base était totalement totalement foireux parce qu'en fait on est en France, donc globalement l'éducation est gratuite. Le diplôme c'est tout, tu vois, et il faut une légitimité séculaire, tu vois, genre c'est des institutions comme Normal, comme
ouais.
Nous on était payants, on n'avait pas de diplôme et on n'existait pas encore, donc
oui, puis tu pars sur un format à la con où tu vas dire aux gens attends,
exactement,
je vais, en 9 semaines je vais vous faire un truc,
exactement,
un peu un truc de charlatan, quoi,
tu lances un téléachat de la formation. Tu vois, donc c'était vraiment pas gagné, et donc il y avait plusieurs trucs
mais à tester. L'avantage c'est que t'étais très légitime.
Moi,
que tu viens totalement de
ça. Bah moi, j'étais avocat pénaliste.
C'est ça.
Clairement, quand j'allais, mais c'était moi qui faisais passer les entretiens aux élèves au début, tu vois, aux candidats. C'était quand même une vaste blague, quoi. On fait du Python, du Ruby, du JavaScript. Ils disaient, JavaScript. Bref, c'était l'enfer. J'étais vraiment une fraude. De toute façon, on est tous des fraudes, d'une manière ou d'une autre. Mais là, en l'occurrence, j'étais vraiment une grosse fraude. Et du coup, donc on a dû tester plein de trucs.
Vite oublié le droit, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, t'es vite allé dans le fake it until you make it.
Clairement. Et en fait, à l'époque, juste, les gens savaient pas ce que c'était que le code, tu vois.
Ouais.
Donc c'est con, mais j'en mets un peu en contexte. Mais il y a 5-6 ans, tu parlais de code, de programmation, etc. Les gens, ça leur parlait pas du tout, du tout. Et donc, il y avait vraiment une question qui était, est-ce que les gens ont envie d'apprendre à coder? Vu qu'a priori, déjà, la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est que le code, tu vois. Donc en gros, on a commencé à faire des petits cours de programmation. Mais tu vois, pour te donner une idée de la pétence que les gens avaient pour le code, moi j'avais pitché le wagon dans un petit event, tu vois, un truc de pitch, et j'avais dit en gros qu'on était des cours de code, etc. C'était un pitch d'une minute et tout le monde avait pensé qu'on préparait au permis de conduire, tu vois. Parce que notre logo c'est une petite voiture. Je parlais de cours de code, tu vois. Première question, oui, alors si je comprends bien, vous positionnez par rapport au code Rousseau.
Je t'avais bien pitché, visiblement.
Et du coup, après, chaque fois que je pitchais, je faisais gaffe à dire on apprend genre à coder, tu vois. Bref. Et du coup, donc on a fait ces petits workshops ponctuels. Au début gratuits, donc pour voir si les gens voulaient, tu vois, apprendre à coder. Après payant, pour voir si les gens étaient prêts à payer pour apprendre à coder. Et puis après, on a, en fait, t'as eu plusieurs étapes gratuites. Ensuite, donc allez, deux heures gratuites. Après 2 heures payantes. Après, on teste le format. On fait 2 jours. Tu vois, est-ce que les gens sont prêts à faire un truc un peu plus long? donc 2 jours payant, donc à payer un peu plus cher, etc. Voilà, et tout ça. Alors, et après, en fait, on est parti sur le programme de 9 semaines. L'idée étant qu'on a lancé en juin 2013, on devait remplir une classe de 10-15 élèves en janvier 2014, où on commençait en fait notre première classe à Numa à l'époque. Et donc voilà, et donc on a passé, donc Boris il bossait sur le programme avec Mathieu, parce que Boris il s'était mis au code aussi assez récemment, hein, il était pas développeur web lui à la base, et moi en parallèle bah, j'allais pitcher le wagon partout, chercher des élèves quoi.
Et tu vis de quoi à ce moment là du coup, puisque t'as fini tes 6 mois là de...
Bah à l'époque je fais des comparutions immédiates, je bosse en gros, je bosse à côté, donc je fais des gardes à vue, des comparutions immédiates, c'est un peu compliqué, j'ai une période... De plusieurs mois où j'habitais chez des potes, j'avais littéralement un baluchon, c'est-à-dire que j'avais mon sac, tu sais, les sacs de l'armée, ouais. Tu vois, de la marine, là,
ouais.
Que j'avais récupéré, je sais pas où d'ailleurs, c'est, qui ressemble vraiment à un baluchon, ouais, j'avais littéralement un baluchon et je me trimballais, tu vois, genre, j'ai un pote qui m'a hébergé chez lui pendant pas loin d'un an, tu vois, donc très sympa, mais ouais, non.
Lui te trouve moins sympa, mais toi...
Ouais, on est plus potes. Ouais. Non, on est toujours potes, salut Louis. Et du coup, ouais, je faisais des gardes à vue la nuit, et je faisais les gardes à vue reconduites, tu vois, en journée, ouais, c'était l'enfer. Le rythme était hyper saccadé, et il y a eu un moment où c'était un peu l'entonnoir, c'est-à-dire le wagon, tu vois, on avait fait le premier batch, je crois, à l'époque. Batch qui évidemment nous avait rien rapporté, on avait payé les profs et le local, tu vois.
Donc premier batch, c'est la première promo,
ouais,
de janvier 2014 à
fin février.
Fin février.
Ouais. Donc là, on a pris plein la gueule parce que c'est
tu devais avoir normalement
bêta,
combien
quoi.
T'as dit élèves? Une quinzaine.
On était 15, ouais.
Et vous les aviez les 15 ou...
Bah ouais, on les avait. Okay. Ouais.
Okay.
Après, on avait, tu vois, on avait cassé les prix, on était, tu vois, et puis on a passé vraiment 9 semaines sur leur dos, en gros, à voir comment ils réagissaient, comment ils apprenaient, comment, tu vois, là où ils étaient contents, là où ils étaient pas contents, il y avait énormément de frustration, parfois, de leur côté, donc c'était vraiment un batch bêta qui était hyper intense, alors surtout pour Boris parce que lui il était prof et puis c'était lui qui était en charge vraiment de la pédagogie, tu vois, mais et puis moi c'était le côté un peu opérationnel, c'était un peu dur aussi, fallait voir comment les, en gros fallait être là pour être sûr que la satisfaction était au rendez-vous quoi, alors qu'on n'était pas du tout sûr de notre produit. On a eu de la chance parce que nos 15 élèves étaient vraiment top, c'était des pionniers, c'était géniaux, d'ailleurs la plupart sont restés des potes ensuite.
D'accord.
Et ce batch là était hyper clé parce que ensuite, on a immédiatement raffiné pour la session 2, qui a commencé début avril. Et là, c'était déjà bien, bien, bien mieux, quoi.
Mais là, tu parles du coup de l'opérationnel. Tu vas m'expliquer après pourquoi c'était mieux et comment vous avez fait ces premiers cours. Mais toi, du coup, pendant toute cette période, on va dire le 2014 ou l'été ou le premier semestre, tu fais toujours tout ça, ces gardes à vue la nuit,
ouais.
Ces trucs-là.
Ouais, ouais.
Mais ça doit être quand même l'enfer parce que déjà t'es crevé, mais en plus, ce qu'on disait psychologiquement, c'est pas des situations. La garde à vue la nuit, c'est rarement quelqu'un de sympa qui te tape dans la main, qui te respecte.
Ah ouais,
machin.
Rarement.
Ouais.
Ouais, ouais, non, c'était, je vais pas me plaindre, en vrai, hein, tu vois, j'ai la chance parce que, enfin, j'étais quand même avocat, j'avais, tu vois.
Non, mais je suis pas là pour me plaindre, c'est
ouais,
important.
Ouais, c'était très intense.
On a une tendance à romancer aussi, toujours ces trucs et tout, mais moi, je pense que c'est important aussi de dire le fond du truc, tu vois.
Ouais, ouais, bah, après, en vrai, tu vois, en net, je pense que je touchais genre 600 euros par mois, tu vois. Donc, vraiment, pour vivre, c'était...
Ouais, tu payais pas un resto.
Non, tu vois. Et donc je gagnais vraiment rien quoi, j'avais vraiment zéro chômage et tout. Et oui, c'était assez crevant comme rythme. Et puis c'est des mondes très différents quand t'es avec ton client qui fait une overdose, tu vois, à 4h du matin au commissariat du 20e à Gambetta, et que le lendemain t'es au camping, tu vois, au camping avec des start-upers. Ouais. Enfin, c'est des mondes, tu vois.
Le camping Silicon Sentier, hein, c'est
ouais.
Pas le camping des
Flo. Ouais, Silicon Sentier, ouais. Ouais.
Donc, du coup, et là-dessus, donc, vous aviez des deals avec Numa, le camping, pour avoir une mise à disposition, vous payez?
On a loué, ouais, on payait, ouais.
D'accord.
On a loué une salle à Numa sur le batch 1, donc, et après, à partir du batch 2, on est parti dans les locaux de The Family, qui est un...
J'ai eu Alice, oui, ouais. sur ce podcast.
Et The Family, à l'époque, ils venaient de récupérer des locaux gigantesques. Ouais. The Family, c'est les rois du fake it, until you make it, ils prennent des locaux immenses, enfin, ils vont toujours trop vite. Et du coup, on leur a sous-loué tout le deuxième étage à l'époque, parce que ça les dépannait, et puis nous aussi, donc c'était vraiment le super deal, quoi.
Dans les locaux dans lesquels ils sont toujours.
Exactement.
D'accord.
Ouais.
Superbe, dans le centre. Et alors, c'est quoi le deal d'origine? Vous créez une SAS, SARL,
ouais, quoi, SAS. Quoi,
tous les trois?
Non, alors oui, enfin oui, tous les trois. Et après, on a. Alors Mathieu est parti donc à San Francisco pour travailler chez Instacart, qui est une grosse boîte de la vallée. Et on a un troisième larron qui nous a rejoint. Aujourd'hui, en gros, on est trois. Donc il y a Boris, qui est le CEO. Moi, je suis le CEO. Et Sébastien, je connais son nom. Hein,
Il est en face de toi tous les jours.
C'est ça. Sébastien Saunier, qui est notre CTO, qui est un mec hyper brillant, qui nous a rejoint très rapidement en fait, au tout début déjà au batch 1, il avait été un peu prof de mémoire et qui lui est vraiment le dev. Tu vois, c'est le mec qui est dev depuis des années et des années et des années. Là où, encore une fois, Boris, tu vois, il était ingénieur, enfin, il était quant, trading, en trading, etc. Seb, c'est vraiment le dev. Lui, c'est un X, qui est développeur depuis très très longtemps, qui est passionné par ça, qui est très bon là-dedans, et développeur chez Google Zurich, etc. Et lui, en fait, est arrivé et il a tout de suite amélioré la plateforme qu'on utilisait pour les cours, les outils que les élèves utilisaient, même enfin le contenu, enfin en gros il a été hyper hyper clé quoi là-dessus sur le produit, ce qu'on pourrait appeler le produit, et voilà, et c'est un mec qui est hyper structuré là-dessus.
Pourquoi il est venu vous rejoindre? Quand t'es Google Zurich et que tu
alors nous on avait
gagnes beaucoup d'argent.
Ouais, alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de chance. Je crois que, enfin, je suis pas dans son fort intérieur quoi, mais nous au début on avait notre logo c'était un petit wagon avec une planche de surf.
Ouais.
Et Seb est surfeur et je crois qu'il aimait bien l'image. On avait fait un surf camp aussi à l'époque.
D'accord.
Donc code et surf. Et je crois qu'il aimait bien en fait, l'image et puis l'esprit du truc. Je crois que c'est ça. Il va me tuer si c'est pas ça.
Le côté un peu hippie. Alternatif indé,
il aimait bien le côté surf en tout cas.
Ouais.
Après, le côté surf et le côté dev. Après, en vrai, il y a eu un très bon fit humain. On s'est très bien entendu tous les trois et on est hyper complémentaires. Et c'est vrai qu'on bosse ensemble depuis 5 ans avec Seb et que ça se passe hyper bien quoi.
Et donc du coup, vous créez la boîte. C'est quoi les moments clés, soit de la création, soit du moment où tu passes où t'arrêtes tes gardes à vue, enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années, qu'a fait la différence, qu'a fait que, un, vous créez la boîte, deux, vous shiftez dans un autre monde, dans un...
Bah, c'est marrant parce que tu vois, j'ai pas un souvenir précis de la façon dont ça s'est passé,
Il n'y a pas eu de rupture.
Non, pas du
tout.
Tipping
point, comme on dit.
Ouais, pas du tout.
Point de rupture, ouais.
Ça s'est fait vraiment de manière tranquille. On a commencé à se payer avec le wagon assez tard. Tu vois, en fait, t'as toujours un moment qui est compliqué.
C'est-à-dire, tard, c'est quoi?
Je dirais, quatrième trimestre 2014, tu vois.
Oui, donc c'est vrai. Ouais. À la fois dans la vie d'une entreprise, c'est au bout d'un an.
Alors c'est rapide,
Enfin pour beaucoup de startups,
c'est rapide, mais
si t'es autofinancé,
totalement.
Ouais, donc t'as pas levé à ce moment-là.
Jamais
levé. Donc je veux dire savoir se payer à quelques-uns au bout de moins d'un an.
Ah ouais, c'était super.
C'était
super, mais si tu veux, il y a un moment qui est un peu compliqué où en gros tu gagnes que dalle.
Ouais.
Tu fais tes gardes à vue et tout. Tu vois qu'il faut quand même que tu consacres de plus en plus de temps à ta boîte parce que ça marche. En même temps, elle peut pas encore te payer.
Ouais.
Tu vois, donc il y a un petit arbitrage à faire. En vrai, je l'ai fait très vite parce que j'adorais ce qu'on faisait au wagon.
Tu t'es jamais dit je vais arrêter?
Non, on me l'a beaucoup dit.
Ouais.
On m'a beaucoup
ça,
dit.
Ça, c'est dur, ça. Qui?
Ouais, il y a plein de gens. En fait, ce qui m'a toujours fait marrer, c'est que c'est un peu dur ce que je veux dire, mais quand tu lances ta boîte, t'as parfois, pas souvent, parfois, des gens qui vont dire que t'as tort, qui vont dire que, tu vois, que c'est,
je sais pas
que
si
c'est dangereux,
pas
que c'est...
Je sais pas si c'est pas souvent.
Alors, en fait, dans ces gens-là, t'as deux catégories de personnes. T'as ceux qui veulent ton bien et ceux qui sont jaloux, tu vois.
Ouais.
C'est un peu les... Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au stade où ils disent « Ah, mais attends, tu fais une connerie, etc. », tu peux pas identifier ces deux catégories de personnes, tu vois. Sauf que plus tard, si ta boîte marche, tu les identifies. C'est-à-dire que plus tard, quand ta boîte marche, ceux qui disaient ça pour ton bien te disent « C'est génial, je suis hyper content pour toi.
Oui. »
Et ceux qui te disaient ça par, tu vois, on va dire ressentiment, te disent un truc du style « Ah putain, t'as eu de la chance, quoi. » Tu vois, comme si globalement...
Ouais, et puis c'est marrant, on en parle pas beaucoup de ça. Alors moi j'ai peut-être ce tort sur ce podcast d'être assez, je veux être optimiste, positif, etc. Mais du coup c'est une sorte, c'est pas un tabou, mais je veux dire t'as un peu l'impression de sortir une aigreur quand tu dis ça, et en l'occurrence c'est vrai que dans l'expérience, moi ce que je veux dans ce podcast c'est partager un peu et à la fois c'est compliqué. Quand tu te mets à la place de plein de gens, de dire à quelqu'un « Ouais, vas-y, fonce, j'adore ton truc. » Enfin, il y a tellement d'idées à la con.
Ouais, mais en fait, tu vois, le truc, c'est que t'as pas... Moi, tu vois, typiquement, j'ai toujours du mal à donner mon avis sur des projets et tout, tu vois, parce qu'il y a des projets que je trouve bidons qui, en fait, sont menés de manière hyper intelligente par des mecs qui sont... Enfin, des mecs et des nanas qui sont excellents en exécution et qui, tu vois... Donc ça, déjà, c'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal à faire. Et en fait, de toute manière, si tu veux, j'ai jamais compris cette idée de dire à quelqu'un t'as tort, ou tu devrais pas faire ça, ou tu prends un risque. Tu vois, parce que, en fait, en gros, c'est quoi le move? Le move, c'est que la personne dise, ah ouais, t'as raison, allez, je retourne à l'usine. Enfin, tu vois, genre, ça a pas de sens, tu vois, il veut faire son truc, laisse-le faire son truc. Je veux dire, à la rigueur, si le mec est vraiment sans filet, j'imagine qu'il en a plus conscience que toi. Tu vois, ou alors il faut le mettre sous tutelle. Tu vois, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est le mec qui est dans la merde, qui a pas de finance derrière lui et qui prend un risque, il sait qu'il est dans la merde, qu'il a pas de finance derrière lui, qui prend un risque. Ça sert à rien d'arriver avec ton marteau et de lui dire ouais, tu sais que t'es dans la merde, que t'as pas de finance et que tu prends un risque, tu vois.
Ouais.
Et en fait, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment compris, tu vois, autant dire au mec alors comment ça va, vas-y, parle-moi, explique-moi, tu vois, à la rigueur te prononce pas, dis pas au mec c'est bien ou c'est pas bien, mais écoute ce qu'il a à raconter.
Non, tout à fait, je suis ouais, et le côté à la limite négatif sur souvent c'est pas forcément contre toi, d'ailleurs c'est souvent contre eux-mêmes, les gens qui vont te dire ça, c'est-à-dire que cette forme de potentielle un peu jalousie, elle est aussi dans le fait de voir que toi tu t'es lancé dans un truc que ne feront jamais, ce qui est certains en ont conscience qu'ils le feront pas parce que ils sont dans un rythme de vie qui est j'y crois pas, moi personnellement je crois pas que enfin, au pire, t'as un emprunt et t'as trois enfants, et ben, tu vends ton appart et puis tu gardes tes enfants et tu leur as.
Mais moi, je pense que t'as des gens qui ont pas besoin des mêmes rythmes, tu vois. Moi, il y avait un gars quand j'étais en coloc il y a très longtemps, que je trouvais hyper sympa, qui était dans l'appart en dessous de chez moi. J'habitais pas avec lui, c'était un voisin. Il était à Paris, il venait de Toulon, il était à Paris pour passer le concours de bibliothécaire. Il voulait être bibliothécaire, tu vois, une bibliothèque municipale. C'est pas un métier qui me chauffe vachement à titre personnel, mais le mec en fait il adorait les bouquins,
oui c'est ça,
enfin tu vois, ouais. il voulait ça, c'était hyper pertinent, ça correspondait bien à sa personnalité, à ce qu'il voulait faire, à ce qu'il aimait.
Oui, mais un type comme ça il te dira jamais non, le fais pas, en tout cas de manière il te le dira pas,
ah ouais,
parce qu'il a une crainte,
non, parce qu'il a sa place,
voilà, mais il te dira pas,
il aime sa place
avec, voilà, exactement,
c'est vrai, ouais.
C'est là où je dis que y a ce côté là quand je dis que je crois pas, attention, faut pas mal interpréter, il y a des gens qui sont vraiment dans des situations épouvantables et qui peuvent pas se lancer dans des, ouais, choses. Mais même là-dedans, on trouve toujours des contre-exemples de gens dans des situations incroyables, épouvantables, qui soutiennent toute leur famille, qui font machin, et qui lancent des business incroyables. Et voilà.
Mais tu vois, t'as un truc trivial qui est, moi, c'est un conseil débile que je donne quand on me demande, tu vois, qu'est-ce que je conseillerais à un entrepreneur, à quelqu'un qui veut se lancer, etc. En vrai, tu vois, si vraiment tu veux que je te donne un conseil, check que t'as 2 ans de finances devant toi, quoi. Allez, tu vois, que tu peux aller habiter chez tes parents, que t'as 2 ans de chômage, que t'as mis un peu d'épargne, que, enfin, tu vois.
Que au pire, tu t'es capable d'aller, voilà, bosser dans un endroit où il y a du travail et de retomber,
exactement,
sur tes pattes.
Exactement. Ouais, en fait, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est, je vais pas me prononcer sur ton projet, etc. Quoique, si tu fais un réseau social de musiciens, je peux peut-être te donner quelques infos. Mais en gros, fonce. Et évidemment, si t'as, allez, 1 à 2 ans de finances devant toi, en économisant, machin, etc., c'est mieux. Voilà. Mais c'est le seul vrai conseil pertinent, en fait.
Et on va, pour clore ce chapitre, je dois dire que je suis même pas forcément d'accord avec toi, dans le sens où, ouais, où sur ce podcast, j'ai eu des mecs comme Fabrice Grinda, extraordinaire, une femme comme Catherine Pinvin, qui a 19 ans avec 3 enfants, dans un truc où, dans des situations où elle quitte son mari et elle se retrouve toute seule et elle crée une boîte, quoi.
Mais souvent, il y a les parents quand même. Tu vois,
pas toujours, et pas toujours. Et Fabrice Grinda, il y a des moments où il était à New York, il dormait sur son canapé, il vivait avec $2 par jour et il mangeait trois parts de pizza. Il était au fond du trou et un an après, il vend sa boîte à, ouais, 200 millions.
Enfin, ça, je dormais sur le canapé, hein, de mon pote et je mangeais les pizzas,
oui,
de mon pote. Mais...
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, voilà, c'est là où faut aussi savoir à la fois, ça se dit beaucoup dans cet écosystème de start-up, mais quand t'as faim, vraiment fin, c'est là où t'as pas le choix, ouais, et où de toute façon tu vas faire des choix qui sont souvent radicaux pour aller plus vite, pour griller les autres, parce que t'as plus faim que les autres, quoi. Et quand t'es tranquillement, y a pas beaucoup de gens qui sont en France. On a Marc Simoncini, on a quelques uns, mais y a pas beaucoup de gens qui sont multi-entrepreneurs, qui créent des boîtes depuis zéro pour les monter à un endroit de ouf, en recommençant à chaque fois, parce qu'une fois qu'ils l'ont revendu et qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, t'as pas les crocs, quoi, non?
Bah, moi, je peux commenter. Après, moi, ce qui me plaît, c'est quand même plutôt cet aspect-là du business, tu vois. C'est-à-dire, ce que j'aime bien dans le fait de monter une boîte, c'est de lancer un truc, c'est de lancer un produit que les gens aiment, que les gens veulent, tu vois. C'est de répondre à des besoins. Moi, c'est ça qui me stimule, tu vois.
Ouais.
En fait, c'est bête. Alors, ça va être hyper trivial et hyper terre à terre, mais je trouve que c'est génial de créer un truc pour lequel les gens sont prêts à payer. Pas pour des raisons financières et tu vois et de fortune, etc., mais parce qu'en fait l'argent, ça reste un modèle de mesure, tu vois, de besoin. Tu sors pas ta carte bleue devant ton ordinateur
pour un truc de merde,
ouais, pour un truc que tu veux pas. Et en fait, alors t'as des gens qui réussissent à créer de l'envie d'acheter, ça c'est un autre c'est le marketing, c'est la pub, c'est un autre sujet, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est créer des produits qui répondent à des besoins, voilà, pour lesquels les gens sont prêts à payer, quoi. Et en fait, ça, je trouve qu'il y a un côté un peu magique. Tu vois, typiquement, quelqu'un qui lance un projet en ligne, le jour où il me dit, bah, j'ai un mec qui a payé 1 € sur mon site, pour moi, c'est le milestone.
Mais clé,
parce qu'en fait, c'est bon, tu vois, t'as cassé un truc, tu vois, et en fait, il a mis 1 €, mais il mettra peut-être 100 plus tard. En fait, ça, on s'en fout.
C'est ce que dit le moins business des invités, l'un des moins business des invités que j'ai pu recevoir sur ce podcast, qui est David Abiker, et qui dit ta première facture, c'est comme la première fois où t'emballes quelqu'un, quoi. C'est tellement jouitif.
Est-ce que tu veux de moi, quoi?
Ouais, ouais.
C'est vraiment, est-ce que tu veux de moi, quoi?
Ouais, ouais. Et je suis d'accord, il y a un côté qui est pas du tout dans l'aspect financier. C'est vraiment dans l'aspect, pas vanity, mais en tout cas, côté j'ai un accomplissement, comme tu l'as dit, quoi. C'est
l'utilité, ouais, c'est ouais. C'est répondre à une envie, répondre à un besoin tiers, ouais, qui c'est pas de toi qui a envie.
T'es pas commis d'office, quoi, dans ce cas-là.
Non, pas du tout.
On t'a choisi parce que quand t'es commis d'office, on peut te refuser quand même, non? On peut dire que qu'on veut pas bosser avec toi.
Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui m'ont refusé. Hein.
Ah non, pas lui.
Moi, j'étais un petit noob, hein, je me faisais retoquer parfois.
D'accord. Donc, ok. Et ça, c'est quoi, du coup, là, vous avez combien de villes aujourd'hui?
Là, on a 32 campus.
Donc d'accord.
On
est, donc, 32 campus en 5 ans.
Ouais.
Comment tu passes de cette première promo, qui est moyenne en termes où t'apprends, on va dire, et où voilà, mais les gens sont extra, mais voilà, t'es pas dans une exé de ouf. La deuxième, qui est nettement mieux, tu le disais. Donc là, on arrive à quoi? 9 semaines à chaque fois, ça s'enchaîne direct.
9 semaines à chaque fois.
On commence à zéro dès que l'autre est la première finie.
Alors en fait, ouais, exactement. En fait, nous, on a une vraie culture du feedback, si tu veux, depuis le début. C'est-à-dire que le programme dure 9 semaines, donc 2 mois, grosso modo. Et on laisse 1 mois entre chaque session. Donc en gros, tu vois, on fait janvier, février, mars off, avril, mai,
C'est bien.
Juin off, etc.
Beaucoup de vacances.
Et ben non, bah, on bosse. Non, on bosse. Mais en fait, pendant ce mois off, on va améliorer le contenu, on va améliorer les outils, on va, tu vois. Et en fait, on a cette culture du feedback. À la fin de chaque session, on demande aux élèves de noter. Tu vois, on fait un NPS. Donc, je sais pas si tout le monde
connaît, mais Net Promoter Score. Donc, très très débattu comme concept d'ailleurs.
Ouais, tout ouais. à fait. Pas chez nous, mais. Okay. Non, mais en gros, ça nous.
Donc, explique hein, le Net Promoter Score.
Ouais, alors Net Promoter Score, en gros, c'est quand tu demandes, je le fais en très, je suis un peu béotien en la matière, mais quand tu le fais, en gros, quand tu demandes à quelqu'un de noter ton produit ou ton service sur une échelle de 0 à 10, les gens qui mettent entre 0 à 6, tu peux considérer que ton produit leur a fait ni chaud ni froid. Les gens qui mettent entre 6 et 8, c'est des gens qui ont aimé l'expérience, c'est des gens qui ont aimé ton produit, qui ont aimé ton service. Et les gens qui mettent au-dessus de 8, c'est des gens qui ont aimé ton service, comme les gens qui t'ont mis entre 6 et 8, mais qui seraient prêts à le recommander. Et en fait, ça c'est hyper important parce que ça crée une boucle de viralité. Et cette boucle de viralité, en fait, si tu creuses un petit peu, tu vois, le marketing, la publicité, tous ces domaines-là, le Graal, c'est le bouche à oreille.
La recommandation, bien sûr, ouais.
Ouais, mais ça c'est le Graal en fait. Et en fait, tu vois, une marque qui aurait un bouche à oreille faramineux aurait pas besoin de faire de pub en fait, presque. Mmh. Tu vois, c'est ce que tu veux atteindre, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Mais et en fait, ça nous permet de créer cette viralité-là.
Ça dépend. Alors j'ai appris ça en bossant avec plein de clients différents. Que ça dépend des business.
Ouais.
Par exemple, le serrurier à Paris, en tout cas, le Net Promoter Score, il s'en fout royalement. C'est pour ça qu'il arrive et qu'il te fait généralement un rip-off parce que le serrurier, il une grosse un rip-off pardon, une généralement il hésite pas à vraiment te la faire à l'envers pour être voilà. Mais faut savoir que c'est le mot-clé le plus cher sur Google quand tu tapes serrurier entre je crois que c'est 22h et 6h du matin sur ton téléphone portable, tu peux payer jusqu'à 50€ le mot-clé sur Google parce qu'en fait le type derrière, comme il va de toute façon te faire changer
ta
bon, 400 balles, ça c'est le moins cher, non? Sinon c'est 1500 ou 2000. Et voilà. Et donc, du coup, l'idée c'est de dire, voilà, mais lui il s'en fout du Net Promoter Score.
Il n'y a pas de fidélisation.
Et voilà, ouais. Exactement. Mmh. Sachant que dans un business comme le tien, évidemment, comme t'as des promos, des gens qui vont tous, enfin, en grande partie potentiellement te recommander, puis après ils vont aller dans des boîtes qui peuvent te recommander.
C'est
hyper important.
Aussi que tu vois, dans l'éducation, nous, on a un produit d'éducation qui est un produit qui est exigeant. C'est quand même 9 semaines. Faut trouver 9 semaines, tu vois. C'est payant, enfin, tu vois. Donc, c'est quand même un engagement, quoi, financier, en termes de temps, etc. Et donc, c'est légitime, si tu veux, vis-à-vis de quelqu'un qui s'intéresse à ton programme, de lui fournir, on va dire, ce genre de d'avis extérieur, tu vois, impartial, que sont ceux des élèves contents ou des élèves pas contents d'ailleurs. Mais en fait, par exemple, si demain je fais une pub, tu vois, dans le métro, en disant le wagon c'est la meilleure école du monde, venez, bah, moi ça va pas me parler, tu vois. Mmh. Ça se vend pas pareil, l'éducation, tu vois. Tu vends pas l'éducation comme tu vends du parfum, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un mon école est super que la personne va considérer que ton école est super.
Ouais, mais c'est pareil dans tous les dans quasiment tous les métiers de service. Ouais. C'est pareil dans mes métiers à moi, évidemment. Si un client est pas capable de me recommander, pour nous le drame c'est d'avoir un client pas content en fait, et ça se transforme sur des notations sur Google, sur Facebook,
ouais, etc.
Et alors,
on a cette culture-là, si tu veux, depuis le début,
ouais.
Ce qui fait qu'en fait, alors, t'as deux trucs. T'as donc cette culture du feedback systématique, c'est même implémenté dans nos outils, tu vois. Donc, il y a cette culture-là. Il y a la culture ingé de mon frère et de notre CTO, Seb, qui consiste à autonomiser un maximum de tâches, voilà, de process, etc., au sein de l'école. Et on a la main sur tout, quoi, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que pour aller à l'étranger, pour ouvrir des nouveaux campus, etc., il fallait être sûr qu'ils abîmeraient pas le contenu, qu'ils abîmeraient pas la marque, qu'ils abîmeraient pas l'expérience, tu vois, les gens à qui on allait confier le campus. Et pour ça, en fait, il fallait contrôler un maximum le contenu, les outils et la satisfaction des gens. Une fois que t'as tout ça, si tu veux, tu peux lancer un campus, tu vois, n'importe où, en fait, parce que
il y a pas cadré.
Bah ouais, en fait, une fois que t'as cadré les outils, le contenu et la satisfaction client, que t'es sûr que quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, tu vois, ça c'est calé, tu peux aller où tu veux.
Sachant que t'as peu de notions culturel, prends pas ça mal, mais ce que je veux dire, c'est que t'enseignes le code à peu près de la même manière ouais. à Tokyo que à
ouais, t'as des petites tu vois, t'as des spécificités. Typiquement en Chine, on est très présent. Il a fallu adapter le programme à WeChat, voilà, ce ouais. genre de ouais. outils qui sont
oui. aux outils plus qu'à la ouais. manière de ok. Et ça, ouais, ça c'est hyper intéressant. Et du coup, le premier pays que vous avez ouvert comme ça, c'était
Bruxelles. Et... C'est pas un pays, mais... non, c'était Bruxelles. En fait, Bruxelles, c'est cool parce que c'est pas loin.
Après avoir fait plusieurs villes en France, vous avez fait Paris, Bruxelles.
Il me semble qu'on a fait Bruxelles et Bordeaux en parallèle.
D'accord.
Il me semble de mémoire.
Et ça, c'est combien de temps après le lancement?
Ça, c'est un an après le lancement.
D'accord.
C'est
dès début, 2015.
Ouais, ouais, début 2015, ouais. Ouais.
Et après, boum, 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 tu répliques.
Ouais, en fait, à partir du moment où ça a marché à Bruxelles, bah, on a répliqué le modèle, quoi.
Et comment tu fais? T'as quelqu'un qui est sur place à chaque ouais, fois, ouais, qui ouais. a un employé?
Non, alors, ouais, on a des. C'est un développement un peu mixte, tu vois. On a des gens qui ont des licences et des gens qui. Et des filiales. Donc, les filiales, D'accord. c'est nous qui avons la main dessus, c'est nos salariés, c'est nos employés, tu vois, nos managers, etc. Et puis, les filiales, les licences, bah, c'est des gens qui développent leur truc eux-mêmes.
Donc,
quoi.
Si par exemple, dans les gens qui nous écoutent, il y en a un qui veut lancer. Une licence au Burkina Faso ou ouais. Je sais pas moi, au Nouvelle-Zélande.
Il nous envoie un mail.
Ok. Il nous envoie un mail et toi tu as un contrat de licence. C'est d'accord.
Après,
une sorte de franchise un peu, ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais. Après t'as des, tu vois typiquement l'Afrique, c'est un projet sur lequel on a envie d'aller nous, tu vois. Ouais. Donc on choisit.
Ouais, il y a des gros et des petits ouais. pays, j'imagine. Ouais, exactement. Là-bas. Ouais, ouais. D'accord. L'idée, c'est que tu priorises les gros pays. Les États-Unis, c'est vous, par exemple.
Alors, pour l'instant, on est partout, sauf aux États-Unis.
D'accord.
Parce qu'en fait, les États-Unis, t'as 250 acteurs qui se mettent dessus, sur la gueule. Enfin, bref, on voit pas trop l'intérêt, si tu veux, pour l'instant, d'y aller. C'est bien pour la fame, c'est bien pour la notoriété, mais par exemple, tu prends un marché comme la Chine. Aujourd'hui, en fait, si tu compares le marché américain au marché chinois, t'as beaucoup de leçons à en tirer, quoi. Donc,
Et la Chine, c'est un partenaire ou c'est vous?
C'est un partenaire.
D'accord.
Ouais.
Et il y a combien de villes là-bas?
Il y a Chengdu, Shanghai et Shenzhen, donc trois grandes villes.
T'es allé partout?
Non, aucune. Je suis dans aucune de ces villes.
D'accord.
Je suis jamais allé en Chine.
D'accord. D'accord. Il y a un de tes associés qui y allait?
Ouais, Boris y allait. Ouais.
D'accord.
Mais c'est vrai que tu vois, il y a plein de campus où on n'est jamais allé, quoi. En vrai. Tu vois.
Mais t'as quand même ce net promoter score qui te dit que le campus
ouais.
se passe bien.
Ah ouais, ouais, je sais que ça se passe bien. Ouais.
ouais, d'accord. Et si ça se passe mal, il se passe quoi?
C'est le fouet, c'est la roue, les chevaux, enfin, l'écartèlement, c'est l'enfer.
Ouais.
Non, si ça se passe mal, on arrête de bosser avec la personne.
D'accord.
On a des conditions hyper strictes, en fait, tu vois, contractuelles, quoi.
D'accord. En dessous d'une telle note, j'ai...
Ouais. Ouais. Ouais, ça rigole pas. Ouais.
Ah, c'est bien. Ben oui, non, mais t'es dans l'éducation, ça se comprend. D'accord. Alors, et aujourd'hui, donc on a compris, je veux bosser avec toi en étant franchisé ou licencié. Pourquoi je dois venir faire le wagon, moi?
Parce qu'on a besoin que tu connaisses l'expérience, on a besoin que tu connaisses le produit et on a besoin que tu saches coder.
Et moi, j'ai besoin qu'on sache coder, sachant que j'ai 15 ou 20 développeurs qui sont super forts. Ou...
Alors, ouais, parce que, en fait...
Pourquoi j'ai besoin de savoir coder, quoi?
Pourquoi? Alors, là, pourquoi t'as besoin de savoir coder? C'est une vaste question. Pour faire le wagon ou globalement?
Non, pour moi, pourquoi j'ai besoin de... Pourquoi pour... Qu'est-ce que j'aurais de plus quand j'aurais fait le wagon, alors que j'ai des gens qui font ça très bien autour de moi?
Alors, en fait...
Je vais découvrir un truc de fou, savoir quoi, je vais comprendre le monde.
Tu découvres un monde très différent. Moi j'ai, tu vois, je parle de mon expérience personnelle, mais moi j'ai découvert un monde très très différent. C'est-à-dire, le code, c'est une façon de penser en optimisant systématiquement tout, tu vois. Ce qu'on appelle le dry, tu vois, dont trip it yourself par exemple, c'est des façons de penser qui sont hyper intéressantes. La programmation, c'est des logiques qui sont hyper hyper trippantes, en fait, c'est assez agréable. Les développeurs, c'est des gens qui sont passionnants, c'est des gens qui sont extrêmement curieux, tu vois, qui pratiquent l'open source, qui échangent, qui sont dans le collaboratif. C'est eux qui ont inventé le collaboratif, en fait. Hein, c'est ces communautés-là qui ont inventé le collaboratif, tu vois.
Ce qui est à la fois paradoxal, parce que pour beaucoup qui sont plus dans le biz, plus souvent extravertis, le développeur type, tu peux pas le qualifier du mec le plus passionnant ou de la femme la plus passionnante de la Terre, souvent plus introverti, etc. Alors qu'il se passe des choses, en fait.
Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment des communautés qui ont été des communautés pionnières, tu vois.
Attention, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dev et ingé. Je prends pas de, là je vais dans les vastes clichés évidemment, hein. Je suis entouré de développeurs qui sont des gens fantastiques, mais ouais, voilà.
Non mais c'est une profession en fait. Alors déjà c'est une profession qui effectivement a une image qui change beaucoup au fil des années, et c'est quand même une profession où déjà tu dois être curieux tout le temps parce que t'es sur du seul meuble, vraiment tout bouge tout le temps, les technos bougent, les langages changent, tout change tout le temps, etc. Donc en gros faut être hyper humble et considérer que ce que tu sais aujourd'hui n'existera plus demain. Ça c'est strictement le contraire de ce que t'apprends quand tu fais du droit, tu vois. Le code Napoléon, il est là depuis un petit moment, tu vois, 1804. Bon, il a changé, hein, mais moins qu'un repo GitHub, quoi.
Mais ce qui est, je vais pas rentrer dans le repo GitHub parce que si je commence à essayer d'expliquer ça là, je vais me fourvoyer. Mais ce qui est pas complètement ce que tu dis là est pas complètement pareil naturel, c'est-à-dire que on a envie de dire que le code c'est empirique, c'est des 0 et des 1. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans ou 15 ans, même si moi je code pas et que je sais pas, enfin, très très peu faire ce genre de choses, on hébergeait des sites sur, limite, on achetait des racks dans des centres d'hébergement, etc. Aujourd'hui, t'as le cloud, c'est totalement différent. Et à tous les niveaux, comme tu l'as dit, à toutes les couches, en fait, le code est beaucoup plus, c'est simplifié sur plein d'endroits. Les CMS, donc les comme WordPress ou les se sont développés. Donc tout a complètement changé. Mais c'est mouvant.
Ouais, c'est très, en fait,
parce que ça avance vite, en fait, c'est ça, non?
Ça bouge extrêmement vite. C'est le mieux qui bouge le plus, quoi. Tu vois, les nouvelles technologies, enfin, qu'on regarde aujourd'hui, il y a 5 ans, c'est un monde différent, quoi.
Et tu crois pas qu'une machine, dans pas longtemps, sera codée aussi vite qu'un mec qui sort du wagon en 9 semaines?
Je pense que sur certains sujets, il y a déjà des machines qui codent plus vite, tu vois, que n'importe qui. Après, la question, pour moi, elle n'est pas là. La question, elle est plus sur la façon de penser, tu vois, les applicatifs, la façon de penser les outils, tu vois, que tu crées. En fait, Internet...
Il faut bien que quelqu'un la code, cette machine.
Exactement. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est qu'Internet, c'est un... Moi, ça me fait marrer parce que si tu remontes, tu vois, loin en arrière, au début de la voiture, tout le monde n'avait pas le permis. Tu vois.
Oui.
Donc t'avais quelques chauffeurs, quelques gens qui conduisaient, mais tout le monde n'avait pas le permis. Aujourd'hui, ça paraît totalement inconcevable, tu vois, de plus avoir le permis. Et voilà. En fait, la voiture, ça a été une des grandes révolutions, tu vois, des siècles derniers. Et il fallait avoir son permis pour travailler, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, Internet, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'Internet, c'est un peu la voiture du 21e siècle. C'est l'outil qui a transcender, modifier en profondeur la société. Et ce qui est assez marrant, c'est que on trouve ça parfaitement normal de rester assis derrière, tu vois. C'est comme si en fait c'est comme si la voiture, en fait, ça c'était pas devenu nécessaire que tout le monde sache conduire, parce qu'en fait
il y aurait des... plus, c'est ça
ouais, en plus ça, alors, encore plus vite, mais en fait, tu vois, Internet aujourd'hui, il faut considérer que c'est un outil sur lequel t'as des forces très puissantes qui ont la main mise, et qu'en fait toi tu peux être soit passif soit actif, quoi.
Tout à fait. Et en termes de business, en termes de les enjeux politiques, stratégiques, commerciaux, c'est hallucinant. Ça, je rejoins tout à fait ce que tu dis, sachant que aussi si tu le pousses un peu plus loin, tout le monde a l'impression de comprendre et de connaître. Je veux dire, comme tu l'utilises tout le temps, en fait tu vois que la vitrine, mais nous, on voit beaucoup de gens qui arrivent, qui nous disent parce que j'utilise Internet et mon téléphone tout le temps, et donc je sais ce que c'est qu'un site. En fait, un site qui marche bien, un site qui marche pas, ça se joue à pas grand chose.
Et puis est-ce que les gens ont bien conscience des enjeux sur l'hébergement de la donnée par Amazon? Est-ce que, tu vois, en fait, l'Internet d'aujourd'hui, il est hyper centralisé. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Moi, je suis pas sûr. Même moi, tu vois, je perçois mal le truc, quoi.
Mais t'apprends tout ça au wagon?
Tu comprends, ouais, tu comprends, parce que tu comprends tout, tu comprends comment c'était hébergé.
Comment tu fais ça en 9 semaines? C'est fou, c'est-à-dire que c'est 9 semaines, 7 jours sur 7, de 6h du mat à minuit?
Non, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 19h.
Quand même, 9h, 19h.
Ah ouais, c'est intense.
Oui, mais en plus, t'as du boulot le soir ou le week-end? Ouais.
Ah non,
okay.
On conseille de se rafraîchir la tête même. En tout, t'as à peu près 300 heures de cours, donc c'est quand même beaucoup, hein.
C'est beaucoup, 300 heures de cours, ouais.
Ouais. Bah tu vois, il y a plein de théories sur à partir de combien d'heures de pratique on devient bon dans un domaine. Je crois que 300 heures, t'es quand même pas mal, hein.
Oui, il y a les caps de 300 et 10 000, je crois, ouais, qui sont ça. Importants. Ouais.
Non, on fait pas un programme de 10 000 heures, mais...
Ouais. Non, bah après, 10 000, c'est pas forcément que la formation, c'est aussi l'entraînement, justement. Bah,
10 000, tu commences à être très bon. Je crois qu'au niveau expert, tu vois, un mec qui fait de tête des équations complexes, tu vois, je sais pas, c'est 50 000 heures de pratique, ouais. Comme ça. Des champions de la mémoire ou des trucs comme ça, je crois que c'est 50 000 heures.
Donc du coup, là-dessus, vous avez un truc où t'arrives, c'est quoi le premier jour du wagon? C'est quoi la première heure ou la première matinée?
Ah, tu vas être hyper déçu. Le premier jour, c'est le setup. C'est hyper décevant. Le premier jour, les élèves passent leur journée à installer les outils, les logiciels, leur terminal, etc. En fait, c'est hyper triste. Hein. C'est très déceptif. Mais
tu nous as pas fait un onboarding, comme on dit.
En fait,
sont émerveillés après le premier jour.
En fait, si tu veux, le jour 1, il a pour objectif de vérifier que tout le monde part avec les mêmes outils,
ouais.
Avec les bonnes versions, etc. Parce que sinon, c'est la jungle derrière.
D'accord.
Donc en fait, le jour 1, c'est hyper trivial, mais c'est ça.
Chacun arrive avec son ordi.
Ouais. Bien sûr.
Ok. T'as quand même des minimums requis comme ordi. Tu peux pas venir avec n'importe quel ordi.
Oui, mais globalement, n'importe quel ordi, tu vois, qui a 3-4 ans, fait l'affaire, quoi. Après, oui, c'est sûr que si t'arrives avec Mac des années 90.
Et t'as des clients entreprises, moi, je peux inscrire de mes employés au wagon.
Ouais. Alors, si t'es suffisamment moderne dans ta tête pour accepter qu'un employé parte 9 semaines se former, oui. Après, c'est plus à ce niveau-là, tu vois, que ça bloque en général avec les employeurs. Parce que tous les employeurs sont pas forcément, chauds à l'idée de laisser quelqu'un partir pendant deux mois.
Et ça coûte combien?
Ça coûte 6 900 euros.
Pour les employeurs comme pour les gens, pour tout le monde.
Ouais, pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Après, on est certifiant, donc tu peux mobiliser du CPF, du DIF, tous ces acronymes, du CIF, typiquement, tu vois, le fonds GSIF, ouais. Etc. Bah, ça, c'est mobilisable.
Ok, et tout le monde est accepté?
Non, faut candidater. On prend à peu près une personne sur trois. Les stats, c'est ça, quoi. Okay.
Donc, je te demanderais bien de faire un prix pour mes auditeurs, mais bon, je suis pas sûr.
Alors ça, mais ma CMO qui décide ce genre de truc, elle me tuerait, je pense.
Dis oui, elle dira oui après. Il faudra que je vais négocier après cet épisode.
Mais ils peuvent m'écrire hein, avec plaisir pour en parler.
Hein. On t'écrit où?
Romain@lewagon.org.
Ok, Romain@lewagon.org. Chouette. Et c'est quoi ton job, toi, aujourd'hui, Romain?
C'est une question que je me pose un peu. une question que je me pose un peu régulièrement. Mon job, c'est.
Tu fais plus de garde à vue hein, la nuit.
Non, ça fait longtemps que j'en fais plus. Mais dans mes rêves.
T'as rendu ton. Pardon, tu n'es plus au baron.
J'ai gardé ma robe. Je me suis fait omettre. C'est un terme. Un peu barbare, mais pour dire qu'en gros, je suis plus avocat.
Mieux vaut garder le haut.
Et je me suis fait haut maître. C'est pour pas dire radier, en fait. Quand tu te fais radier, c'est que t'as été un mauvais garçon et que on t'a effacé. Voilà. Quand tu t'es fait haut maître, c'est que on t'a omis. Voilà.
D'accord. Donc tu t'es fait haut maître.
Je me suis fait haut maître, ouais. Ouais, c'est un peu dur comme expression, ouais.
Il va falloir que tu reprennes parce que je peux plus.
Mais c'est vrai que se faire remettre, ça fait en plus, tu sais, comme si t'allais boire aussi une grosse, grosse bière.
Voilà. Je suis. J'ai fêté mon anniversaire hier, je dois être un peu fatigué, je pense, ça doit être ça. Aujourd'hui, tu fais quoi?
Aujourd'hui, du coup, mon boulot, c'est beaucoup. On a des nouveaux projets sur lesquels je bosse, qu'on serait parti avec mon frère et Seb. Et en gros, en vrai, tu vois, mon boulot, c'est de continuer la stratégie de la boîte et de faire en sorte de la mettre en place avec les bonnes personnes, tu vois, suivre les personnes qu'on met sur ces projets-là, etc. Après, en pratique, tu sais, moi, j'ai toujours l'impression que je suis dans un bateau, tu vois, sur un petit bateau, un petit voilier. Que je vois le phare, tu vois. Je vois le phare où je vais et j'arrive, je m'installe le matin à 8h à mon bureau tranquillement, tu vois. Je hisse les voiles, etc. Tout va bien, la mer est calme, etc. Et en fait, à 8h10, je me prends un petit coup de vent latéral, tu vois. Voilà. Et à 9h, je sais plus où est le phare.
Ouais.
Et en général, à 19h, tu vois, je suis parti sur un autre continent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça le quotidien d'un entrepreneur, en fait, c'est de régler un peu au fil de l'eau, c'est de régler au fil de l'eau les imprévus, et quand t'as le temps entre ces imprévus, implémenter les stratégies que t'as en tête avec tes associés, quoi. Enfin, j'ai un peu l'impression que de le vivre comme ça.
L'idéal étant que le phare, tu le retrouves quand même un peu de, tu t'ailles toujours un peu dans la même direction, plus ou moins.
En fait, le phare, ouais. Tu finis toujours par le retrouver. C'est juste qu'il y a beaucoup de vent, les vagues sont hautes, alors tu le vois pas toujours, et puis parfois tu le confonds avec un autre phare. Et, enfin,
de temps en temps, le lendemain, il est plus loin que la veille, ce qui est relou.
Mais c'est vrai que, souvent. Après, c'est vrai que, du coup, l'objet, mais en fait, globalement, j'ai l'impression que le boulot d'un entrepreneur, c'est de régler des problèmes, quoi.
Et y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont pas du tout de formation, on me le dit souvent. T'es presque autodidacte, je veux dire, en tout cas dans le business, et dans le code, enfin, je veux dire, dans tes métiers-là, toi, t'as fait 5-6 ans d'études pour être avocat. On t'a pas appris ni le business, ni le commercial, ni la compta, ni la finance, ni tout ça. C'est quoi ton conseil, je sais pas, en tout cas t'as appris quoi et comment t'as fait et...
En fait, je pense pas que ça soit l'entrepreneuriat en soi, je pense pas que ce soit quelque chose qui s'apprenne vraiment.
Non, mais les outils, les choses qui vont autour, t'es plus accéléré. Si tu comprends pas la compta.
Je comprends rien. Ouais. Enfin, en vrai, non, mais. Je comprends à peu près. Mais...
Non, mais c'est vrai, c'est un outil, c'est pas une fin en soi.
Là. Mais en vrai, la compta, on s'en fout pas.
C'est business.
C'est important, mais.
Comment tu vas chercher tes premiers. Je sais pas, t'as des sponsors aussi.
En fait, pour moi, tout ça, c'est beaucoup de bon sens. C'est est-ce que tu crois en ce que tu fais? Est-ce que tu réussis à valider que les gens y croient aussi? Parce que ça, c'est souvent l'étape un peu difficile. Souvent, tu crois en ce que tu fais, mais il n'y a personne pour te suivre. Et puis voilà, enfin, c'est tout. Et puis après, est-ce que tu es capable de le vendre, tu vois? Est-ce que tu es capable de donner envie aux gens d'acheter ton produit, tu vois?
Mais comment tu le vends? Comment tu es allé chercher la première promo?
Bah, en rencontrant les mecs.
Ouais.
Tu vois, j'étais un camelot un peu, tu vois. J'allais pitcher le wagon un peu partout. Enfin, j'allais dans les trucs de pitch, des accélérateurs.
Ça, tu le fais toujours. Mais...
Je le fais moins parce que maintenant, en fait, c'est l'avantage d'une marque, tu vois. Une marque, ça te permet de moins passer le temps.
Mais si, et par exemple, si t'es ici, qu'on parle au-delà de la sympathie et du partage, ton intérêt, je devrais poser cette question plus souvent d'ailleurs, mais c'est quoi? Parce que finalement, si t'en refuses presque 2 sur 3 en France, alors il y a des gens qui écoutent un peu dans le monde entier, j'en suis très fier d'ailleurs, ton intérêt, en fait, t'es full en France, non?
Bah, mon intérêt, c'est pas de. Ouais, je fais pas ça pour.
C'est la marque. Ouais, c'est la marque. Ouais.
Ouais, mais pas. Après, tu vois, le... une société, une boîte, une marque, faut la faire vivre, tu vois. Que t'aies besoin de. Tu vois, je pense pas que Vuitton ait besoin de clients, je pense pas qu'Hermès ait besoin de clients, tu vois. Pourtant, ils continuent à faire des campagnes, ils continuent à exister. Enfin, c'est vivant. Une marque, c'est vivant, tu vois.
Note pour tout le monde, j'ai toujours besoin de clients, moi. Donc, allez-y, n'hésitez pas. D'accord.
Non, mais, nous aussi. j'ai pas dit qu'on avait pas besoin de clients.
Ok.
Malheureusement.
Très bien. Et donc, c'est quoi le futur du wagon?
Alors, le futur du wagon, là, on a pas mal de sujets en ce moment. Il y a un sujet, moi, que j'aime beaucoup, c'est commencer à travailler avec des corporate, avec des grosses sociétés, etc. Parce que il y a vraiment des sujets de future of work, de transformation, tu vois, de façon de penser, mais c'est infini, c'est un puits insondable.
C'est dans un business de formation maintenant, au-delà du code ou...
En fait, si tu veux, je trouve que la formation professionnelle, c'est un domaine qui fait pas envie, tu vois, dans laquelle on a une assez mauvaise idée des acteurs qui interviennent et on se voit vite dans une tour Cogip à la Défense, tu vois. Alors qu'en fait, c'est hyper cool de former les gens. Je pense que des acteurs un peu plus neufs, qui créent des formats un peu plus innovants, qui donnent un peu plus envie, qui se battent là-dessus, je pense que c'est hyper important et moi, j'aimerais bien qu'on monte au créneau vachement là-dessus aussi.
D'accord.
Voilà. Après, le wagon, on a des milliards de choses à développer. Donc, on bosse avec des sociétés, on bosse avec des écoles, on teste des nouveaux formats, on teste des nouveaux domaines, tu vois, on a des cours en ligne, enfin, on a vraiment des tonnes de chantiers en parallèle. On est dans 30 campus partout dans le monde, on a plein de zones géographiques qu'on a envie de couvrir. Donc, il y a encore des tonnes de choses.
C'est quoi votre CA à peu près? Tu vous en parlais où?
Je crois que j'ai pas le droit d'en parler.
D'accord. Bon, très bien. Et vous formez combien de personnes par an?
Alors, cette année, on a formé 1800 personnes.
D'accord. Donc, en fait, sur 4004 au total, vous en avez fait 1800 en un an. Donc, ouais, pas la moins de la moitié.
Beaucoup accéléré.
Alors, pour ceux qui, voilà, hein, il a dit 6900 euros TTC. Donc, fois 1800.
C'est, non, pas, c'est pas le même prix partout. Non, mais je... Heureusement, à Rio, c'est pas 6900 euros, les pauvres.
Hein. Évidemment. D'accord. Et du coup, l'idée c'est d'en faire plus. Tu peux scaler l'année prochaine, tu vas pouvoir en faire 3006.
Ah ouais, 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 bien sûr.
Et l'année d'après, 10 000, c'est quoi
On n'a pas d'objectif, si tu veux, chiffrer en nombre de personnes qu'on veut former. Après, après l'objectif, si, c'est quand même de devenir de plus en plus gros. Moi, limite, c'est de doubler tous les ans le nombre de gens qu'on forme, tu vois.
Et il y a une sorte de sous-jacent, je sais pas, philosophique ou quoi, c'est intéressant comme, je veux dire, comme métier, t'apprends un dialogue entre l'homme et la machine. Mm-hmm. C'est des choses auxquelles vous réfléchissez, tout ça, un peu?
Alors, le dialogue entre l'homme et la machine, c'est pas un sujet sur lequel je bosse vachement.
Ouais.
Non, nous, on est...
Tu veux dire,
en fait, nous, si tu veux, on a un... Moi, il y a un sujet, tu vois, dont je suis assez fier, enfin, un truc dont je suis assez fier au wagon, c'est le... C'est,
tu vas me prendre une grosse tarte dans la gueule, là.
Non, non, c'est le sujet de changement de vie, tu vois. C'est en fait, moi, je vois, tu vois, les gens qui passent au wagon, il y en a vraiment qui changent de vie. Et je trouve ça cool. Et en fait, moi, c'est plus ces sujets de chemin de vie et de reprendre confiance en soi et de débloquer des trucs dans sa tête. Tu vois, moi, c'est ce sujet-là qui me... La machine, elle est toujours au service de l'homme.
Tu peux me balancer un ou deux bels exemples?
Oh là là, mais honnêtement, j'en ai vraiment plein. On a une élève qui était prof de français, qui voulait faire autre chose, qui est dev aujourd'hui chez Algolia. Honnêtement, t'imagines sur 4000 élèves. Ouais. Non, mais on a plein d'histoires.
Et là, comment monter des business mirobolants?
Ouais, enfin après, ça dépend, faut que tu définis mirobolant, mais on a des belles histoires. Bah, tu vois, typiquement, il y a un projet qui s'est développé au wagon il y a 2 ans qui s'appelle Skello. Ils ont levé 6 millions d'euros il y a quelques mois. Enfin, il y a vraiment plein de jolies histoires, si tu veux. Et après, il y a toutes les histoires, entre guillemets, qui sont pas racontables parce que c'est des histoires un peu de l'ordinaire, tu vois, mais en fait, où c'est des gens que t'as vu arriver, par exemple, qui étaient dans des déficits de confiance, par exemple. Tu vois, tu vois des gens qui étaient un peu timides, un peu inhibés, etc., et qui, en fait, à la fin des démos, tu vois, au bout des 9 semaines, tu les vois sous un autre jour, tu vois, ils sont voilà, même physiquement, ils tiennent plus droit, tu sens qu'ils sont...
Il y a des gens qui sont mariés, quoi, en fait, aussi.
Et alors, je crois qu'il y a eu pas mal de chopes, hein, c'est très possible.
Bientôt, on va vendre.
Mais ça, c'est con, parce que c'est pas, tu vois, je vais pas te faire... je pourrais te faire une campagne de pub horrible, tu sais, style avant-après, tu sais, comme pour les régimes, tu vois. Ouais. Mais non, mais en vrai, tu vois, mais c'est du concret, tu vois, et en fait, c'est génial de voir les gens qui prennent confiance, parce qu'en fait, ils ont dans les mains un outil qui est hyper puissant, quoi.
Et un débat éternel des entrepreneurs ou des VC quand ils investissent, des investisseurs dans les entreprises, c'est il te faut un techos ou il te faut un dev. Est-ce que si je suis une équipe de 3 fondateurs ou 2 fondateurs d'une boîte, j'ai pas de dev et j'en trouve pas et je galère parce que je sais pas quoi, si je me dis je vais aller au wagon, est-ce que, entre guillemets, sur beaucoup de projets, c'est potentiellement un good start?
Ah bah c'est le parfait start. Bah, il y a même des, tu vois, Doctolib, ils ont 4 ou 5 devs de chez nous, tu vois. On a, entre chaque session, donc chaque mois off, là, on a une job fair.
Ouais.
Où t'as des boîtes qui viennent, qui s'inscrivent pour rencontrer nos élèves, etc. Et ouais, tu vas trouver des... En fait, l'avantage aussi, c'est que chez nous, tu vas trouver des élèves qui ont des profils hyper rares. Ouais. Parce que tu vas avoir quelqu'un qui a fait du marketing, qui a fait du journalisme, qui a fait de la finance, qui a fait... Enfin, tu vois. Alors, imagine, même un avocat, tu vois. On a plein d'avocats qui sont venus faire le wagon. T'as un mec qui était avocat, qui est dev aujourd'hui, et t'es doctrine ou t'es capitaine de contrat.
Ouais.
Bah, c'est des profils de dingue. Tu vois, c'est des mecs qui sont juristes, qui connaissent, tu vois, le métier. Ils ont une connaissance métier qui est hyper valable.
Ouais.
Et derrière, en plus, ils savent coder. C'est génial.
Ouais. T'es pas complètement geek. Ok. T'as des bouquins qui t'inspirent pour tout ça? Tu lis des trucs spécifiques? Il y a des choses qui ont un peu changé ta vie là-dedans?
Pas trop. Moi, je suis assez, je suis assez mauvais sur ces questions-là.
D'accord.
En fait, je lis beaucoup. J'ai l'impression qu'une de mes premières règles de développement personnel, c'est de pas lire de livres de développement personnel.
Ouais. Au-delà du développement personnel, il y a des livres de business à proprement parler, mais peut-être que
pas ouais, trop. Non, si plus... en vrai, si dans le temps, il y avait quand même de Lean Startup, tu vois, que j'avais trouvé.
Lean Startup.
Ouais, de Eric Ries, que j'avais trouvé. que j'avais trouvé quand même assez assez malin, mais c'était c'est dingue parce qu'aujourd'hui c'est un vieux truc mais ouais à l'époque j'avais trouvé que c'était quand même bien amené et bien pensé. Ouais. Après moi je mets un point d'honneur à lire autre chose que des livres tu vois de management de, mais parce que en fait on est tellement dedans si tu veux au quotidien dans notre écosystème etc que c'est quand même hyper important de pouvoir se foutre dans un Victor Hugo ou dans un enfin
oui bien sûr ok et si t'avais l'occasion de retrouver Romain au moment où il fait toutes ces gardes à vue bien avant le où t'es on va dire où tu rejoins ou quelques mois après avoir rejoint ce cab où tu t'associes où tu fais le pénal que tu pouvais te glisser un truc à l'oreille tu te dirais quoi?
Ouais, je me dirais vas-y
mais non, tu y es allé tu l'as fait
non mais je me dirais en vrai je crois que j'étais assez raccord avec ce que je faisais tu vois à l'époque donc j'ai pas trop de leçons que j'aurais voulu m'apporter à l'époque parce qu'en fait je pars du principe que toutes les gadins toutes les galères tous les trucs que t'as eu c'est hyper important donc s'en prémunir c'est nocif tu vois du coup non j'aurais juste envie de rester dans un coin et de me regarder faire quoi tu vois
ok
voilà après je me serais quand même globalement conseillé de péter un coup sur tout ce qui est réglementaire légal etc et d'écouter quand même le moins possible la vie des autres quoi en tout cas quand on en vient à ce que tu crées
t'as des rituels des je sais pas des choses qui
bah je lis beaucoup
ouais
tu vois je lis allez au moins une heure par jour
donc de la littérature plutôt.
Ouais. Je lis beaucoup. J'ai une vie pas intéressante.
Je travaille.
Ah, c'est terrible. Je bosse, je lis et je fais du sport. Le mec est nul.
D'accord.
Je lis beaucoup. J'aime bien cuisiner. Ça me vide bien la tête. Découper des légumes et tout, c'est un truc qui me vide bien la tête. J'aime bien faire ça. Tu vois, une journée idéale, c'est une journée où je pars relativement tôt. Je rentre chez moi, je découpe quelques carottes. Je lance mon bœuf carotte et puis je vais me bouquiner un truc quoi. Ça c'est vraiment la bonne journée tu vois. Et là il est à peu près à 20h et puis c'est bon quoi.
Ok. Tu rebosses pas après le soir?
Non. On a une règle qu'on essaie de respecter. Tu sais on utilise Slack massivement.
Oui.
Qui est une vraie saloperie en fait potentiellement.
On me le dit de plus en plus hein, ça mais.
Ouais. Alors si j'ai quand même des règles. J'ai aucune notification sur mon téléphone.
D'accord.
C'est-à-dire je reçois aucune notif. Ni Messenger ni WhatsApp ni SMS
ni le
Slack
monde,
ni mail ni rien. J'ai aucune notif. Parce qu'en fait, cet outil-là, j'utilise pas pour qu'il me ping. J'utilise pour moi aller chercher de l'information.
Et sur ton ordi, t'en as en revanche?
Aucune. Mais vraiment aucune.
T'as aucune notif nulle part?
Non, aucune. En fait, mon boulot, c'est d'aller regarder mes mails et Slack, tu vois. Donc, si je le fais pas, j'ai une raison de pas le faire. Donc, j'ai pas de raison d'être notifié, quoi.
Tu vois. Le SMS, quand même. Le petit Messenger.
Ouais, mais tu vois, j'ai.
Ouais.
J'ai pas le, tu vois, je lis pas, il s'affiche pas sur mon téléphone, ouais, ouais. Tu vois, je sais que j'ai un message, mais je le regarderai plus tard.
Okay.
Ça c'est vraiment, alors pour le coup, ouais, je trouve qu'il y a un côté asynchrone qui est hyper important, tu vois. Je veux pas être plugué à mon téléphone, je veux pas que mon téléphone me dise, voilà, t'as reçu ce message-là, regarde-le, voilà, enfin, tu vois, ça c'est mort. Ça, je dois être totalement maître de ce truc-là. Après, on a des règles quand même avec mon frère et Seb, notamment, qui sont, pas de message Slack intempestif à partir de 19h, tu vois, pas de message Slack le week-end, enfin, voilà, enfin, on essaye, si tu veux, de respecter quand même une certaine hygiène de vie pour le soir et le week-end, où justement on va pas se mettre trop dans le boulot. C'est compliqué parce que quand t'as ta boîte, c'est mélangé à ta vie, quoi.
Bien
tu vois,
sûr.
c'est dans ton cœur, quoi, dans ton ADN. Mais faut quand même faire un peu la part des choses.
Et des petits secrets d'orga ou des applis justement sans notif mais qui te changent la vie ou des
Moi j'ai vraiment c'est vraiment mail calendar donc un bon client mail tu vois là j'utilise Spark qui est pas mal et mon calendrier ou en gros si c'est pas sur mon calendrier ça n'existe pas et en fait mon mail
c'est pas tout... le premier à dire ça. Je crois que c'est Pierre Valade qui me l'a sorti, mais
ah non, mais moi, c'est
pareil.
C'est pas sur mon calendrier, ça n'existe pas. Ouais. Mais vraiment. Hein. Et en plus, tu vois.
Et ça t'arrive pas d'oublier de mettre un truc sur ton calendrier et de voir quelqu'un qui débarque et qui dit.
En général, quand c'est pas sur mon calendrier, c'est que la personne n'a pas créé l'event, tu vois. Mais non, non, quand je dois mettre un truc sur mon calendrier, je le mets. Après, j'utilise Calendly aussi quand même. C'est pratique. Mais tu vois, le mail, tu vois, par exemple, je fais pas de to-do list. C'est-à-dire qu'en fait, mon mail, c'est ma to-do list. C'est-à-dire que t'as trois étapes possibles pour un mail, tu vois. C'est soit il faut que tu répondes à ce mail, soit tu as répondu à ce mail, soit ce mail était informatif, tu vois. Si le mail est informatif, tu archives, donc il a aucune raison d'être dans ta boîte mail. Si le mail, tu y as répondu, pareil, il a aucune raison d'être dans ta boîte mail parce que tu y as répondu. Si le mail est dans ta boîte mail, c'est que tu y as pas répondu.
Donc, t'es en mode inbox zéro?
Ouais.
Et tu y arrives.
Ouais. Okay. J'y arrive, tu vois. Idéalement, j'essaye de tu vois, d'y arriver le vendredi, quoi.
Inbox zéro, ça veut dire que t'as zéro mail zéro à traiter mail, dans ta boîte mail.
Ouais, mais parce qu'en fait, vraiment, encore une fois, un mail qui a pas de raison d'être dans mes mails n'y sera pas. Mmh. Tu vois. Dans mes mails, en fait, j'ai que des mails auxquels je dois répondre ou des choses que je dois faire. Donc, par exemple, mais ça peut être, tu vois, par exemple, là, je dois faire repeindre mon entrée. Tu vois, donc je dois contacter un entrepreneur pour qu'il repeigne mon entrée. Enfin, il vient demain, le mec. Mais je me suis, à l'époque où on m'a donné les coordonnées de l'entrepreneur, je me suis envoyé un mail, tu vois, à moi-même en me disant, bah, appelez le gars.
Par exemple, t'as beaucoup de 1800 élèves par an, il y a des gens qui t'écrivent, tu leur demandes de rien et tu peux pas, enfin, tu peux pas tout traiter. Il y a des choses.
En fait,
tu
l'avantage.
Tu forward, des gens.
Ouais, je forward un peu. Je reçois, en vrai, tu vois, j'ai pas, enfin, ça dépend des périodes, mais je reçois, je pense, une quarantaine de mails par jour, cinquantaine de mails par jour.
Après, c'est pas tant que ça.
Non, c'est pas énorme. Enfin, à la fin de la semaine, ça fait pas mal de mails si tu les as pas traités, mais de mails, de vrais mails auxquels il faut répondre, tu vois, pas de mails. Mais c'est vrai que en fait, moi, je suis dans une position qui est agréable, qui est que j'ai pas besoin de relancer les gens. On va dire sur le principe, tu vois. Par exemple, si j'étais business developer ou tu vois, je devrais relancer les gens, mettre des rappels pour relancer bidule, etc. En fait, moi, je suis dans une position un peu confortable qui est que j'ai pas spécialement besoin de faire ça. A priori, les gens, c'est eux qui vont m'écrire ou ceux qui vont me répondre parce que j'aurais déjà répondu.
Sont maintenant que Romain a donné son mail sur ce podcast, vous pouvez le flooder. Il va en recevoir 200 par jour. Je compte sur vous. Non, non.
J'ai eu des périodes où j'en recevais beaucoup, beaucoup plus. Ouais.
Et je sais pas
pourquoi d'ailleurs.
Écoute, probablement que t'es bien organisé, que les gens vont au bon endroit pour. C'est une bonne.
Après, il y a un mail contact à @wagon.org aussi. N'hésitez pas.
Hein. Trop tard. Je vais pas le redonner. Hein. Faudra remonter un peu en arrière. Et où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te t'as des réseaux sociaux privilégiés? Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook.
Pas spécialement. Je suis sur tous ces réseaux-là. Ouais.
Il y en a pas un sur lequel t'es plus.
Non, pas spécialement. Je suis assez mauvais en Twitter. Je tweete un peu, mais je suis assez nul avec Twitter. Je scrolle beaucoup trop Instagram à mon goût. Et ouais, j'utilise beaucoup Facebook, mais de moins en moins là. En vrai, j'ai l'impression que le réseau que j'utilise le plus, c'est WhatsApp.
Ouais, qui est pas un réseau. Non. Si. Oui. LinkedIn, non.
si, LinkedIn. Mais LinkedIn, il y a trop de gens. Tu sais, j'ai trop
d'élèves ou
de contacts et tout, et du coup, c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est la foire à la saucisse quand je vais dessus. Enfin, je m'excuse pour mes contacts LinkedIn, n'est-ce pas?
Alors, c'est bien, c'est que tu vas faire la promo de cet épisode sur LinkedIn et que les gens qui vont t'écouter vont
c'est sûr, ils vont dire que c'est la foire à la saucisse.
Ok, Romain, sur cette belle foire à la saucisse, cette belle image.
La belle foire à la saucisse où on se fait omettre, tout ça, bref. Tout ça.
Voilà, j'ai beaucoup aimé cette première rencontre. Bravo parce que c'est un beau métier et c'est une belle aventure que vous faites et je dois te dire que ça fait envie de tester et voilà.
Mais merci pour l'invitation. C'est sympa.
Et donc voilà et puis on mettra toutes les infos sur le wagon et sur tes réseaux sociaux et sur comment s'inscrire et les codes promo que je vais négocier et tout ça sur le site de Génération Do It Yourself qui est gdiy.fr. ça c'est aussi un nom à la con mais bon gdiy voilà.
Comme pas mal hein.
Ouais, c'est court en fait mais voilà.
Je pense que ça va.
Et
le .fr était dispo.
Ouais sur un 4 lettres ça va. Voilà,
c'est pas dispo. Mal hein. Ouais.
Bon, les amis, on va s'arrêter sur ces belles paroles, cette foire à la saucisse. Romain Paillard, Le Wagon, merci.
Merci à toi.
Et à bientôt. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5 à tous ceux qui écoutent. Et d'ailleurs, je compte sur toi pour le faire écouter à tous les francophones qui passent par Le Wagon, parce qu'il y a plein de bons enseignements sur des gens qui montent des boîtes.
On va partager tout ça.
Allez, salut Romain.
Salut.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.